Moi, je me rappelle très bien être dans un club où justement tous les artistes un peu de cette génération-là passaient à l'époque. Et un DJ qui à l'époque s'appelait Dooster, maintenant il est un peu plus connu comme King Doudou. Donc c'est marrant, c'est de se dire que ce mec a fini par produire pour PNL. Mais à l'époque, en club, il avait passé un remix de La Chenille, quoi. Okay. Et là, je me rappelle qu'on s'était tous... C'était vraiment les petits clubs de 100... Il y avait 100 personnes, quoi. C'est vraiment les... un peu dans une cave, quoi. Mais le...
Après, La Chenille, ça marche, hein, pardon. Mais...
Bah, je me rappelle qu'on s'est tous regardés en se disant « Là, est-ce qu'on a vraiment le droit de danser là ?»
Monte le son, c'est le podcast des passionnés de musique, bienvenue à tous et...
Bonjour, bonjour.
C'est Adaz.
Ça va et toi, Salman?
Écoute, ça va très très bien, je suis content qu'on se retrouve dans le podcast des passionnés de musique, cette
le
émission.
Le meilleur podcast du monde, j'ai l'impression.
Mais franchement, c'est le podcast.
Ouais,
le podcast.
Ouais.
Il n'y en a pas d'autres, il n'existe pas les autres.
Non, c'est vrai. C'est Monte le son, le podcast.
Exactement. Voilà.
J'espère qu'il n'y aura pas d'autres podcasts chez Monte le son, sinon on sera bien emmerdé.
Et bah, le deuxième podcast, on ouais. travaille dans un truc comme ça, je ne sais pas. Non, écoute, c'est... Pour l'instant, il n'y a qu'un podcast qu'on retrouve tous les 15 jours.
Oui.
Et puis à chaque fois, bah, on reçoit des invités différents du monde de la musique. On essaye d'explorer un peu la diversité du monde de la musique. Là, c'est tellement
ouais,
riche.
Ouais, même si les gens nous disent qu'on parle quand même beaucoup de rap.
Ça arrive.
Ça arrive. Mais là, justement, on part un petit peu ailleurs.
Mais
vite fait.
Absolument. Même s'il y a des liens.
Il y a des liens. Il y a des liens, mais...
Parce que c'est vrai qu'on sort d'un épisode avec Miel de Montagne, par exemple.
Oui, on prévient, là, c'est pas un épisode artiste.
Okay. Non, là, c'est vrai, c'est un épisode journaliste. Ouais. Parce que nous sommes avec Maxime Delcourt.
Bonjour. Salut. Maxime, bienvenue.
Salut à vous deux.
Ça
merci.
Va, Max ?
Ça va.
Bah, écoute, on est trop content de te recevoir parce que tu viens de sortir un livre.
Les années Bloghouse.
Absolument, les années Bloghouse. Dead Banger à MySpace, itinéraire croisé d'une génération de Fluo Kids.
Fluo Kids, hein.
Les
Fluo Kids. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu.
C'est vrai, hein.
Fluo Kids.
Ouais. Et dans ce bouquin, tu reviens sur une période de la musique autour des, dans les années 2000. Ça nous a rappelé plein de souvenirs, et puis surtout on a trouvé ça passionnant parce que c'est hyper riche comme bouquin, plein d'anecdotes, plein de références musicales, et puis surtout tu présentes une période charnière dans l'histoire de la musique, à la fois d'un point de vue culturel, esthétique, mais aussi d'un point de vue économique, de comment on consomme la musique, puisque c'est l'arrivée d'Internet, etc. Une période vraiment importante. Mais est-ce que tu veux bien juste avant peut-être nous dire un peu quel est ton métier, ce que tu fais?
Ouais, moi c'est vraiment journaliste musical, culturel depuis 15 ans environ. Et c'est vrai que là, avec ce bouquin, il y avait vraiment l'idée de creuser une période qui pour le coup n'a pas été explorée en tout cas d'un point en littérature, quoi. Et une période aussi avec laquelle moi j'ai grandi, c'est vraiment moi mes années lycée, c'est les premières sorties,
ça
marque beaucoup. et donc il y avait l'idée, il y a des bouquins sur la French Touch, il y a même un bouquin sur Ed Banger d'ailleurs en tant que tel, mais il y avait cette idée là d'aller plus loin qu'Ed Banger, bien sûr, même si le label le nom du label est sur la couverture du bouquin. C'est vraiment de creuser vraiment un mouvement qui on peut étirer de 2005 à 2011 grand maximum à peu près. Et donc oui, une époque où tout se transforme, qui est un peu... En fait, quand j'ai pensé à ce bouquin, la première chose à laquelle la question que je me suis posée, c'était un peu, est-ce que ce serait pas le premier mouvement culturel occidental, en tout cas, en tout cas musical et culturel, au 21e siècle, dans le sens où ça embrasse la dématérialisation de la musique. Il y a une génération qui émerge et qui s'affirme dans les années qui suivent. Il y a vraiment un style musical vestimentaire aussi qui est très marqué. Donc c'était un peu le prisme de départ, quoi. Et je trouve après, donc ça a été l'occasion de creuser tout ça.
Excusez-moi, mais au niveau de la chronologie,
ouais.
Ça date d'avant les années 2000.
C'est vrai qu'il y a des prémices, etc. Mais il y a vraiment un truc qui se passe.
Fin 90 plus.
Hein. Ouais, on va en parler.
On va en parler.
Parce que le vrai premier mouvement des années 2000, je le dis, c'est évidemment la tectonique. Tout le monde le sait. Et en plus, c'est en train de revenir. Donc
qui est étroitement lié en plus à certaines musiques de ce.
Ouais. On pourra parler de Yel, par exemple, effectivement, qui est présente dans le bouquin. Mais je précise quand même, Max, parce que toi, actuellement, tu es rédacteur en chef du magazine donc Fisheye Immersive. Tu collabores régulièrement avec les Inrock, Tsugi, New Noise, Harper's Bazaar, Libération. Et puis, tu écris donc des livres. Alors évidemment, il y a les années Bloghouse qui vient de sortir. Mais avant ça, déjà chez Le Mot et le Reste, cet éditeur qu'on salue, tu avais sorti un livre sur Tupac, un livre sur les Neptunes et Timbaland. Un autre sur le free jazz aussi. Sur... Alors celui-là, il m'a intrigué. Je savais pas que tu avais sorti ce bouquin sur la chanson française autour de mai 68 et comment il y a eu une espèce d'expérimentation, d'exploration musicale à ce moment-là.
Ouais, c'est ça. Bah, c'était une grande obsession pour moi en 2013-2014. Il y avait 2-3 compiles qui étaient sortis. Je me suis dit, mais il doit y avoir un mouvement incroyable en fait dans ces années-là. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé une artiste comme Brigitte Fontaine, en tout cas dans ces années-là, qui est vraiment qui cassait les codes de la chanson française dans des textes qui étaient parfois extrêmement perchés, mais en tout cas qui étaient, il y avait vraiment une volonté d'explorer le format musical et d'être vraiment en fait anti-yéyé et anti-radio du coup. Et c'est vrai qu'avec tout ce sous-texte 68art, l'écologie un peu avant l'heure, avant, en tout cas c'est un endroit que ça devienne très populaire. Et ça foisonnait d'artistes en fait qui ont parfois été distribués gratuitement dans les manifestations, qui ont vraiment porté un message hyper politique mais de façon complètement déstructurée dans la musique. Et ça a été un formidable sujet à creuser. Et puis en fait après c'est vrai que c'est d'ailleurs comme ça que le bouquin Free Jazz le second est né. Ouais. C'est tout simplement, je partais du principe que dans le premier bouquin sur la chanson française expérimentale, que ce mouvement était né grâce un peu à l'arrivée des free jazzmen à Paris dans les années 60, qui s'étaient exilés à cause du mouvement des droits civiques. L'éditeur avait trouvé qu'on pourrait peut-être perdre les lecteurs et les lectrices en commençant.
Le lien est intéressant, en tout cas.
Le lien est intéressant, oui. Ouais. Ouais, clairement. Et en fait, donc, on a eu, lui, il cherchait à faire un bouquin sur le free jazz depuis quelques temps. Et c'est vrai que moi, des artistes comme Archie Shepp ou John Coltrane ou Albert Ayler sont des artistes que je trouve assez dingues, et ça me permettait de prolonger aussi ce sujet hyper politique en fait. Et après ces deux bouquins-là, je suis retourné vers mes vraiment passions adolescentes et des choses qui méritaient aussi, je trouve, d'être explorées.
Après, il y a un point commun dans tout ça quand même, Daz, c'est que dans le livre Les années Bloghouse, t'évoques plein de scènes musicales en fait, plein de groupes, plein de bandes de gens aussi d'ailleurs, avec parfois des esthétiques sonores communes, mais surtout des influences hyper variées. Ouais. Et parce que on voit bien que t'es quelqu'un de curieux, que t'aimes bien plein de genres musicaux, etc. Et c'est un truc qu'on retrouve dans les années Bloghouse, puisqu'en fait, c'est vraiment une période où on est à la croisée du rock, du rap, de la pop mainstream, plutôt dans un écrin quand même de musique électronique. La forme est quand même vraiment issue des musiques électroniques, mais en fait, la musique électronique devient le réceptacle, le diffuseur,
c'est ça,
d'une nouvelle génération, de plein d'influences, d'un mélange des genres. Et là où ça devient intéressant, c'est comme on disait en introduction, ça s'accompagne, comme toutes les grandes révolutions, enfin grandes révolutions, bouleversements en tout cas culturels, de changements aussi d'ordre économique, le home studio qui se démocratise, les musiciens qui produisent donc à la maison des MP3, qui peuvent directement mettre sur Internet, parce que Internet est arrivé, elle commence à se démocratiser aussi. Et là, en fait, on arrive... tu décris une situation qui nous amène à la musique d'aujourd'hui.
c'était un peu l'idée, ouais, c'est de voir en fait que tout ce qui se passe, enfin en tout cas beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, sont déjà un peu évoluent un peu en souterrain, prennent forme déjà au début des années 2000. Ah, la dématérialisation à outrance, le côté DJ star en fait, ces artistes-là sont vraiment un peu, contrairement à toute cette démarche dans les musiques électroniques des années 80-90 où on est en retrait. On se masque, on met un casque, évidemment.
C'est la musique avant tout.
Ouais, c'est la musique avant tout. Là, le DJ se monte, pose en couverture des magazines, en club, monte sur ses machines, comme on a pu le voir aussi. Bah, DJ Mehdi était assez emblématique de cette façon de faire. C'est un peu ces prémices vraiment du DJ au centre de tout.
Tu cites DJ Mehdi. Est-ce que, on rentrera évidemment dans le détail dans l'émission, mais... quelques artistes emblématiques de ce qu'on appelle la Bloghouse. On verra aussi d'ailleurs que le terme a des limites, mais globalement de cette période, disons. Quelques artistes emblématiques.
Bah, les artistes emblématiques, c'est évidemment, là on l'a dit, DJ Mehdi. Il y a évidemment aussi, toujours sur Headbanger, il y a Justice qui incarne très bien ça. Qui arrive vraiment à cette période. Après,
je pensais que c'était un peu plus tard, moi.
Ouais. Okay. Non, ils arrivent vraiment. En fait, en 2005-2004, ils sont déjà actifs. Et ensuite, Parawan, Don Rimini, les Crookers. Ouais. Mais après, ça va aussi plus loin. Il y a Uffy, il y a aussi toute cette scène, plutôt, on va dire, Boys Noise, la scène anglo-saxonne également, qui flirte un peu plus avec l'indie rock, mais qui est aussi vraiment étroitement liée à tout ça, et Track évidemment aussi, ouais. qui est l'un des rares peut-être, enfin en tout cas l'une des stars de ce mouvement à encore défendre la Blog House aujourd'hui. Donc non, il y a
grand DJ Track
et très très grand DJ, ouais. Et mais évidemment je pense que pour le grand public, c'est moi, quand on me dit c'est quoi la blog, enfin quel artiste Blog House, je cite évidemment Justice en premier, ouais. Parce que c'est peut-être ceux qui ont composé le premier tube de ce mouvement, ouais. Et
qu'on s'écoute maintenant.
Et oui. Bah oui, on va s'écouter un extrait quand même.
Attention.
Il est fort, Maxime. Hein. On sent, tu vois, qu'il est journaliste. Bon, bah, effectivement, tu le dis, le truc qui lance un peu la carrière de Justice, et aussi d'une certaine manière, toute cette période, en tout cas, ça l'incarne. We Are Your Friends, Justice, Simian Mobile Disco. On s'écoute un extrait. C'est marrant, t'avais écouté ça toi à l'époque ? Ça te parle ?
Je l'entendais, mais ouais. Pour moi c'était du bruit, tu vois. Non mais en fait c'est marrant parce que pour moi c'était dans la continuité de ce qu'il y avait déjà avec Daft Punk, etc. Donc j'avais pas forcément à ce moment-là conscientisé le fait que ouais. Ça appartenait à un mouvement musical différent, tu vois. Pour moi c'est de l'électro quoi. Enfin,
mais l'affiliation est réelle parce que d'ailleurs dans le livre, Max, tu commences avec... les prémices, les inspirateurs justement en fait de cette scène, enfin cette scène, encore une fois, en tout cas de cette période, et tu parles de
Guimane. Ouais, c'est même le tout premier chapitre qui n'est pas le plus long évidemment, mais c'est consacré vraiment à un peu à Daft Punk, mais surtout en plus par le prisme de cette photo qui est dans le livre intérieur d'Homework en fait, où on voit la chambre de Bangalter. C'était vraiment dans l'idée de commencer forcément par un groupe phare, mais en même temps par cette idée de là on va rentrer dans une période où tout se fait à domicile. Ouais, ouais. C'est vraiment là le studio devient ça devient un home studio et tout est possible depuis ce type de lieu.
C'est important ce que tu dis parce que le home studio n'est pas à la fin des années 90 ou au début des années 2000, c'est plutôt années 80-90, mais c'est sa démocratisation par contre qui effectivement est vraiment plus fin 90, début 2000, parce qu'on commence à avoir du hardware, des cartes son accessibles enfin, etc. Là où dans les années 80, il y a des gens qui ont des home studios, mais qui ont un peu plus de moyens pour pouvoir installer des trucs.
C'est très cher encore.
Ouais. Ouais. Des grosses consoles, ouais.
Ouais, tandis que là, alors sur Reason, sur Logic, il y a tout devient possible pour cette génération-là dont je parle dans le bouquin, donc qui est vraiment né fin 80 ou début 80, ouais, c'est ça à peu près quoi. Et donc ouais, ça permet et c'est vrai que on parlait de l'affiliation de Justice avec Daft Punk, alors bien sûr, eux ils ont aussi joué le jeu à fond et là je crois que le premier ou deuxième numéro de Tsugi en 2006-2007. C'est vraiment une rencontre en couverture Justice Daft Punk. Quoi. Ouais. Donc, après, ils ont voulu vraiment s'en détacher, mais ils ont un peu profité de ça aussi. En plus, ils ont le même manager, qui est Pedro Winter. Donc, mais c'est vrai que il y a ce morceau, en plus, il est assez contemporain aussi de l'album Human After All de Daft Punk, donc, qui est déjà dans ce... qui a un autre son que Discovery, qui est vraiment un son très rock, très brut, très rugueux. Ce que va être une partie en tout cas de ce mouvement Blog House dans les années 2000 quoi. Et c'est vrai qu'après après Daft Punk, je voulais quand même ouvrir, parce que Daft Punk n'est pas le père de toute cette scène, ce qui a peut-être pu jouer du tort d'ailleurs à certains de ses musiciens, dans le sens où on les a estampillés un peu French Touch 2.0, ce qui est très limitant pour moi, Mais donc voilà, de s'intéresser à d'autres profils comme Solwax, comme Aaron Alkan, comme Diplo aussi. Qui était...
Alors, ça, tu les cites effectivement aussi comme des gens qui vont vraiment déterminer le son des années 2000. Mm. Peut-être qu'on peut s'arrêter rapidement. Solwax, par exemple, bon, au-delà du fait que c'est un grand groupe, ils ont vraiment cette période. D'ailleurs, ils montent avec un alias, Too Many DJs. Ouais. Raconte-nous un peu cette histoire et pourquoi ils sont importants à ce moment-là.
Ouais, bah parce qu'en fait, Solwax, c'est vraiment à la base, c'est un groupe de rock, punk rock, un peu garage. Ben voilà, c'est vraiment indie rock aussi. Et en fait, sur un des morceaux, sur un des albums de Solwax, il y a un morceau qui s'appelle Too Many DJ. Et en fait, ça va devenir leur alias club. Et c'est vraiment sous cet alias qu'ils vont commencer à. Enfin, en fait, ils vont publier des compilations où toutes, c'est des énormes mashups. En fait, c'est vraiment cette idée de créer en fait sur un même. En fait, on va mélanger. Alors, j'ai plus les exemples en tête, mais par exemple, on va mettre Iggy Pop avec Beyoncé. Ça peut être ce genre de grand écart qui peuvent être faits. Et d'ailleurs, leur première compilation, il y a 140 groupes qui sont samplés, qui sont remixés. C'est dantesque, en fait. Et cette idée-là de mix, de mash-up, c'est vraiment... Et toutes les personnes que j'ai interviewées dans le bouquin, quasiment toutes, me citaient justement Solwax comme référence ultime pour cette approche du remix, cette approche de... Enfin, cette volonté de, quelque part, mettre le rock dans les clubs, en fait. Non, vraiment dans les clubs électro. De booster un peu les BPM, de vraiment jouer avec ces riffs saturés. Ce qui est très caractéristique de la majorité des artistes dont je parle dans le bouquin. Et Solwax, c'est vraiment au fondement de tout ça. C'est, je parlais même, pour citer quelqu'un de précis, donc Manu Baron, qui a ouvert le Social Club quelques années plus tard, qui est aujourd'hui patron de Savoir-Faire, donc qui est une agence management qui gère Parawan, qui gère énormément d'artistes, Brodinski aussi à l'époque. Me disait que lui, ouais, pour lui, c'est vraiment Solwax, c'est les pères fondateurs de toute cette période, quoi. C'est
mais du coup, pardon, je te coupe, mais, ouais, le terme bloghouse, du coup, est-ce que c'est un terme qui était revendiqué par les artistes ou c'est quelque chose qu'on a mis, une étiquette qu'on a collée après coup?
C'est même après coup. En fait, historiquement, alors bien sûr, ça peut se discuter, mais en tout cas, on retient l'apparition de ce terme autour de 2008. En fait, c'est sur un blog, Hipster Renouf. Le mec qui tenait ce blog a un jour publié un article genre What the fuck is Bloghouse, en répertoriant un peu tous les morceaux, tous les singles de Hype Machine, qui était le gros blog qui répertoriait tous les blogs de l'époque. Et c'est en fait à partir de ce moment-là que le mot Bloghouse a un peu été retenu. Mais un artiste comme Sirkin, par exemple, disait clairement que Bloghouse, c'était pas un terme qu'ils employaient entre eux.
Oui, c'est ça.
C'est quelque chose qui est apparu après. Et puis, en plus, ils trouvent ça un peu insultant, parce que ça voulait dire qu'ils devaient, que leur musique était juste destinée au blog, qu'ils n'avaient pas d'autre intérêt que sur le web, alors que, bah, clairement, ils avaient d'autres ambitions.
Le virage, c'est ça, c'est qu'avec l'émergence d'Internet, les blogs sont devenus des plateformes de curation. Puisqu'il n'y avait pas encore les playlists sur les plateformes de streaming. Il n'y avait même pas les plateformes de streaming.
On rappelle, parce que les blogs, c'est vrai que ça n'existe quasiment plus aujourd'hui.
Oh, si, quand même, mais ouais.
C'était des formes de mini sites internet simplifiées.
C'était des magazines très orientés texte.
Où tu n'avais que des articles qui s'enchaînaient.
Il n'y avait que des articles, effectivement. Bah, en fait, il y avait deux mouvements pour découvrir de la musique. Il y avait effectivement les blogs et puis il y avait les forums. Et parfois des blogs avec des forums associés directement sur le même site. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on... En fait, c'est drôle justement qu'on utilise ce terme bloghouse, parce que moi, à titre personnel, j'étais complètement passé à côté, tu vois. Pour moi, c'était de l'électro, enfin, tu vois. Et c'est marrant parce qu'il y avait la même chose côté hip-hop, par exemple avec un site qui s'appelait OK Player, par exemple, qui boostait beaucoup de groupes qui vraiment trouvaient des pépites et les postaient sur les forums. Et en fait, c'était ensuite embarqué. C'est comme ça qu'un groupe comme Little Brother a été découvert par Questlove des Roots, par exemple. Et en fait, jamais les rappeurs se sont dit on fait du OK Player rap, tu vois. Donc je me dis pourquoi est-ce qu'on dit blog.
Enfin, c'est un peu comme le SoundCloud rap finalement, 10 ans plus tard. Ouais, c'est qu'on a rattaché un médium
à un mouvement musical.
Quitte à le réduire un petit peu, bien sûr.
Ouais, parce que du coup, c'est pas un terme qui était utilisé par les acteurs de ce mouvement musical.
Pas du tout. Ouais,
mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est bien d'avoir dit les années Bloghouse, c'est pas la Bloghouse. Et surtout parce qu'en fait, même s'il y a plein de points communs, d'un point de vue sonore, il y a une diversité folle en fait. Tous ces groupes, ils ne se ressemblent pas. Et d'ailleurs, tu parles de rap, Solwax est globalement l'esprit rock est vachement insufflé comme ça dans cette musique électronique. Mais en fait, l'esprit rap aussi, à fond, on parlera un petit peu forcément de la clique du rap alternatif, TTC, etc. Et qui eux étaient complètement matrixés aussi par la ghetto house, etc. Par toutes les origines afro-américaines, par le rap de manière générale. Et ils le mettaient aussi. Et tous en fait étaient là-dedans. Tous étaient aussi dans un délire délire rap. C'était la culture de beaucoup de ces gens aussi.
Ah, mais clairement, ouais, ça, c'est même. Bah, moi, pour être totalement honnête, c'est même ça qui. D'un point de vue personnel, en fait, moi, j'écoutais que du rap au collège, ça. Et en fait, ça arrivait au lycée où il y a cette ouverture. Et c'est bête parce qu'on a toujours besoin un peu de validation de la part des artistes qu'on écoute. Et de voir des artistes comme Didier Mehdi, évidemment, mais les gars de TTC, en fait, dont on les voit flirter avec l'électro. Tout ça, en fait, ça vient quelque part, ça m'autorise à ce moment-là à écouter cette musique-là. Mmh. Je me dis qu'il y a une filiation qui est réelle. Et là, oui, bien sûr, en fait, on se rend compte que Don Rimini, qui était l'un des DJ les plus français, les plus plébiscités, en tout cas, à cette époque-là, il mixait aussi du hip-hop une fois par semaine dans d'autres clubs, dans d'autres types de clubs en tout cas. Data, qui est le premier DJ, enfin en tout cas qui a commencé en tant que DJ de Grums. Parwan, qui vient forcément qui a produit Antilopsa, qui a produit Tout Simplement Noir, qui a produit TTC. Feeds, Deadbanger, qui vient aussi du rap. C'est Sirkin Bombo qui me disent que eux, en fait, ils voulaient faire du rap, mais ils n'avaient personne pour rapper sur leurs instrus, qui se sont mis à faire de l'électro, quoi. Mais c'est vraiment. Ça a été une sorte de, pas révélation, mais c'est vrai que c'était pas l'angle, je voyais le lien avec le rap, mais je me doutais pas qu'autant d'artistes, finalement, rêvaient de produire pour des rappeurs, quoi. Mmh. C'est juste qu'ils ont pris une orientation très différente, mais ça a été vraiment, après c'est devenu presque pas un fil rouge, mais en tout cas, ça a créé vraiment une cohérence entre tous ces artistes-là.
Et ça, c'est d'ailleurs, enfin, moi c'est aussi pour, outre le fait que j'ai connu cette période-là, parce que j'étais ado, jeune adulte, durant cette période, et en fait, je pense qu'encore aujourd'hui, ça a joué sur le fait que j'aime toutes les musiques. Enfin, que je m'intéresse à toutes les, que j'aime vraiment. Et c'est un truc générationnel aussi, effectivement, notamment via l'accès Internet, même si c'est encore incomparable avec les générations d'aujourd'hui qui ont encore été plus bercées avec plus d'accès à Internet et tout. Moi, nous, je suis pas né avec Internet, mais je l'ai quand même eu adolescent et ça a joué sur le côté, on était des carnivores, quoi. On bouffait de la musique à travers Internet et tout. Et ça te facilite la tâche pour aller à droite et à gauche et écouter plein de trucs différents, quoi.
Bah, les blogs, oui, c'est ça. Tu rentres du lycée, tu vas sur les 3, 4, 5 blogs que tu suis quotidiennement. Et là, tu as toujours 5, 6 nouveaux titres par jour, des remixes qui ne sont pas en bonne qualité, mais qui en tout cas existent. Et toi, t'ouvres un peu les frontières parce qu'en fait, tu vois que, par exemple, Klaxons, qui est plutôt un groupe de... Enfin, on a considéré ça comme la New Rave, mais voilà, qui est un groupe d'indie rock en soi... Bah, ce groupe-là se fait remixer à la fois par Todd Edward, à la fois par Justice, à la fois par Aaron Alkan ou Brodinski. Donc en fait, ça ouvre les perspectives et on se dit, bah, en fait, un même groupe peut prendre plein d'orientations différentes.
Et alors pour revenir donc à ce terreau initial, alors tu parles de Daft Punk parce que non seulement ils vont être l'idole de tout le monde, et ils vont influencer tout le monde. Il y a le côté, tu dis, homemade, etc., qui est aussi mis en avant, y compris d'ailleurs dans l'esthétique, qui est hyper DIY, hyper on fait les trucs à notre manière... une forme de simplicité aussi, dans l'attitude, etc. Mais Soul Wax, on les a dit aussi, on a parlé aussi d'eux, moins souvent cités, mais hyper important, tu nous l'as dit. Et puis, Errol Alkan, ça c'est quand même une figure dont on parle assez peu au final, mais il est important aussi.
Ouais, bah pareil, de la même manière que Soul Wax dans un ancrage un peu plus rock, techno. Mais oui, hyper important parce qu'en fait, en Angleterre, il va avoir ses propres soirées, il va beaucoup mixer à la fabrique, il va avoir ses résidences et ça va ramener énormément d'artistes. Puis même lui, il va se mettre à produire beaucoup d'artistes de cette génération. Et puis pareil, cette idée de mash-up qui lui le fait différemment avec une approche beaucoup plus peut-être club techno.
Quand on parle de mash-up, c'est vraiment on prend deux morceaux et on les fait fusionner, on met un a cappella ça sur une autre instru, machin, etc. C'est ça.
C'est cette idée-là. Ouais. Et lui, il va pousser cette idée-là à l'extrême et de manière hyper hyper brillante. Et d'ailleurs, il a des remixes qui sont devenus cultes. Je pense par exemple justement ce remix qu'il a pu faire pour Klaxons. Je sais pas s'il est sur les plateformes par contre, mais en tout cas, c'est même un rework. Et c'est juste fabuleux. Et c'est vrai que quand on écoute les remixes de Soul Wax ou des Ronald Kahn, c'est quand même une belle leçon de style. Quand même. Enfin, je pense par exemple à un morceau du groupe Gossip qui a été remixé par Soul Wax. Clairement, il y a une énergie qui est dingue, quoi. Et on sent que les mecs viennent du rock, ils comprennent les codes. Mais ils emmènent ça dans un univers que je trouve assez... Pardon, à titre personnel, je trouve ça assez fascinant.
Est-ce que c'est le morceau Standing in the Way?
C'est ça.
Bon, on s'écoute un extrait.
Allez,
soyons fous. Night version. j'avance un peu, ça dure 7 minutes.
Oui, la progression, elle est peut-être un peu lente.
Ouais, mais c'est fait pour danser aussi.
Ouais, c'est fait pour danser, oui.
Le délire, en tout cas, clairement, t'as une forme hyper club avec des drops, vraiment ça monte, etc. Enfin, t'accompagnes les danseurs et tout. En même temps, c'est hyper rock, il y a des riffs vraiment rock.
Ouais, parce qu'à un moment, ils coupent complètement les basses pour laisser juste le riff, quoi. Et après, il y a ce truc, tout ce travail sur les percussions. Solo que c'est un peu leur caractéristique. C'est vrai que même quand on les voit en live, ils ont trois batteurs et batteuses aussi. Et ça envoie sur ce plan-là. Et ils adaptent ça à un langage club qui, moi, je trouve très puissant.
On verra ensuite que le son, qui quand même provient beaucoup d'Europe, va atteindre toute la planète. Ouais. Là, on parle quand même de phénomènes qui restent assez européens. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a aussi un pendant ? Tu as évoqué Diplo, par exemple.
Ouais, y a Diplo qui ramène une autre énergie, plus hip-hop, plus ce même dancehall, en fait, aussi, clairement. Mais qui lui aussi, il a aussi cet ancrage rock, parce qu'il a, moi je me rappelle d'un mix de lui fin des années 2000, qui était un mix qui s'appelait Chasing the Dragon, et en fait c'était que des, il mixait du rock psyché des années 60-70, et il y avait même un morceau de Jacques Dutronc dedans, enfin c'était improbable, mais du coup encore une fois il y a cette idée de créer des liens entre les scènes. Et Diplo, à ce moment-là, c'est un peu une exception. C'est vrai que les Américains ne sont pas les plus présents. Mais je trouvais ça intéressant de le mettre comme figure tutélaire, sachant que il a quand même vachement participé à ce mouvement-là par la suite. Et puis ça montrait aussi qu'il y avait Soul Wax en Belgique, il y avait Ronald Kahn en Angleterre. Il y a Diplo aux États-Unis.
Et Low Budget, d'ailleurs, aussi, dont tu parles.
Et Low Budget, ouais, clairement, qui est l'associé de Diplo au tout début.
Mais si les Américains ne sont pas trop présents, qu'est-ce qu'ils foutaient alors ? Ils étaient sur quel...
Je pense qu'en fait, les Américains, ils ont vraiment compris l'intérêt de la musique, des musiques électroniques, en fait, avec le concert de Daft Punk à Coachella en 2006. Je pense que ça a vraiment été un point de bascule.
Est-ce que tu parles d'un point de vue commercial visibilité, vraiment, etc. Ouais. Parce qu'évidemment, il y a une grande histoire de la musique électronique aux États-Unis.
Mais là, d'un point de vue vraiment, en termes de vraiment le circuit commercial, et on va faire de cette musique quelque chose de grand, on va faire des grands spectacles.
Est-ce qu'il va devenir l'EDM, toute puissante plus tard?
C'est même l'EDM, c'est vraiment un peu l'enfant bâtard de la Blog House, en fait, de ces années-là. C'est que le DJ devient un star, on sature les synthés, les logiciels à outrance, et eux ils amènent ça à un niveau encore plus fou. Dans le livre, à un moment, je dis que justement, si la Blog House était une fête foraine, le DM, c'est un grand parc d'attraction, en fait. Ça vient vraiment ça, et c'est une espèce de machine incontrôlable. Mais ça, on est plus du coup sur la fin de cette ère Blog House, donc début 2010.
Encore une fois, ça exprime cette idée un peu de période de transition, période charnière, période de bouleversement, etc., et qui donne le monde d'aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est ce qui permettra, parce que là on parle de DM, à des Skrillex ensuite va tout défoncer, David Guetta va prendre une ampleur internationale, Bob Sinclair aussi, voilà. C'est ce son-là derrière qui va arriver.
C'est-à-dire que Skrillex, ça s'inscrit pas dans...
Skrillex, c'est vraiment justement, c'est la relève, en fait, on va dire, il fait pas du tout le même son, mais en tout cas c'est le DJ phare du début des années 2010. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mec qui squattait beaucoup au Social Club dès qu'il était en France, donc il connaissait, tu vois, il a sorti l'album de, je sais plus quel album de Birdie Nam Nam sur son label pour le distribuer aux États-Unis, donc il a cet ancrage là mais il fait pas du tout la même musique, quoi. Et par contre, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que tu citais David Guetta et Bob Sinclair,
qui sont en fait des OG aussi,
mais justement, c'est en fait, si on parle des années 2000, les vraies stars finalement des années 2000 en termes niveau électronique en France et même du coup à l'échelle européenne et mondiale, C'est Martin Solveig, Bob Sinclair et David Guetta. C'est pas les artistes dont je parle dans le bouquin. Là, on est vraiment sur un genre plutôt populaire, mais quand même un peu niche.
Hipster, quoi.
Très hipster, ouais, très branché. Ouais,
plus référencé, plus qui s'intègre dans une filiation musicale qu'il revendique, de trucs plus anciens.
Qui devait certainement même pas forcément respecté les figures de David Guetta ou Bob Sinclair, non, en termes de...
Ouais, je pense. Je t'avoue qu'on en a pas, j'en ai pas parlé avec eux. Mais non, à mon avis, ils devaient pas avoir, c'est pas le même monde, quoi.
Ouais,
c'est clairement ça. Pas le même monde. Il y a peut-être un respect pour ce que notamment David Guetta et Sinclair ont pu être. Parce qu'ils ont quand même une... À la base, ils viennent quand même d'un... des sous-cultures, quoi.
Ouais, mais bien sûr. Ouais. Oui, parce que tu parles des gens que tu as rencontrés dans le cadre du livre, parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu es vraiment allé à la rencontre des acteurs de cette période. Donc, tu as pu discuter avec A-Track, avec Alan Brax, Ken Blaster, Crookers, Danger, Data, Étienne de Crécy, Parawan, Pone, Serkin, Fille, Elle. Bon, tu t'es tous allé les voir.
Mais pas Beau Sinclair, ni David Guetta, du coup. C'est dommage.
Je suis même pas sûr qu'il m'aurait répondu, d'ailleurs.
Je sais pas, ouais, je me rends pas compte.
Mais du coup, moi je suis vraiment béotien hein, sur ce truc-là. Je sais qu'au début du bouquin, tu parles de Daft Punk en disant que donc, c'était la révolution du home studio. Mais d'un autre côté, ils étaient quand même restés un pied dans l'industrie puisque eux, ils étaient signés chez Virgin.
Ouais.
Tous les mecs là, qui font des remixes dans tous les sens comme ça, ça se passe comment au niveau des droits, au niveau des signatures
c'est apparemment, de ce qu'ils me disaient, c'est vraiment une dernière période un peu floue avant justement que voilà, tout ce cadre... Ouais. C'est qu'il y avait... Il y avait, alors bien sûr, il y avait des sommes qui étaient parfois conséquentes. Hein. Généralement, apparemment, c'est plutôt entre 700, 1500, 2000 euros pour un remix, mais parfois ça pouvait monter pour les grands noms plus haut.
Mais pour un remix, c'est-à-dire celui qui remixe ou celui qui se fait remixer qui paye?
Pour celui qui remixe. Le label paye le remixeur, quoi, du coup.
D'accord, oui, ok.
Ouais.
Okay. Donc tu payes le remixeur, mais tu payes pas des droits au... Ah si, c'est le label qui a le titre qui veut le faire remixer.
Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, okay. Ouais.
Donc ça veut dire qu'il y a. C'est les labels qui appelaient les artistes pour les faire mixer, pour les faire remixer.
Globalement, ouais. C'est comme ça que ça se passait.
Quand on évoque justement le fait que ça pop sur des blogs, les morceaux sortent, que c'est pas forcément distribué physiquement, c'est directement des MP3, etc. Normalement, tu te dis le label il a plus rien à faire là-dedans, en fait.
Ouais, en fait, là on parle, on va dire sur la fin des années 2010, des années 2010 en fait. Ouais. C'est les labels en fait ont compris un peu l'économie qui se passe, même les médias du coup, parce qu'en fait c'était très blog, mais à ce moment-là même les médias s'intéressent à.
Parce que là on est en pleine crise du disque dans ces années-là.
Absolument, ouais, clairement. C'est important d'ailleurs, on en parle là.
Mais c'est vrai qu'à la base, c'est plutôt des remixes faits de manière complètement, on va dire, artisanale, arrache. Ouais, c'est ça, c'est entre eux, en fait.
Je peux citer dans le livre, parce que t'as vraiment une partie sur le remix, parce que ça fait partie de cette culture aussi. Ouais. Il y a le côté fait maison, home studio, dans la production, mais aussi dans le côté remix dans la production qui est hyper important. Et tu dis, par exemple, donc là, je cite le bouquin, ce qui n'était pas systématique par le passé devient une norme, un marché, plus ou moins légal, plus ou moins organisé, mais un marché tout de même. Et donc là, tu cites Parawan, qui dit, il y avait beaucoup d'argent dans les remixes, qui étaient encore bien considérés. Il y avait une vraie excitation autour des derniers remixes de Sébastien, Aeroplane ou Don Rimini. On savait que ça allait tout retourner. En prime, Parawan met l'accent sur toutes ces heures passées dans les backstage du Social Club, où les fichiers s'échangent à la manière de cartes Panini, où chacun se refile des test pressings ou des versions compressées de son dernier remix. Il évoque aussi des discussions entre DJ sur des messageries instantanées qui permettent d'avoir un avis extérieur et de retravailler le son si besoin.
Quelle messagerie?
Avant,
sur MSN.
MSN, MSN Messenger, bien sûr.
La messagerie de MySpace.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Donc avant d'envoyer le remix à un blog et de mesurer en temps réel la réaction des fans. Voilà, on est vraiment dans la période, tu vois.
Ouais, c'est très bien lu.
Oui, parce qu'il y a eu justement, encore une fois, on parle de pont. On est dans le remix, le remix touche tous les styles musicaux, toutes les sous-cultures en tout cas. Je pense à l'album de Jay-Z, là, le Black Album.
Ouais.
Qui s'est fait remixer par un nombre incalculable de producteurs, le Grey Album, le Brown Album, le machin, en fait. Et où il y avait carrément un jeu où les artistes lâchaient les acapellas exprès pour se faire remixer par un peu toute cette scène. Donc ça phosphorait vraiment.
Et qui est une culture qui, c'est d'ailleurs, qui est pas désuète. Il y a toujours des artistes qui sont attachés au remix, qui sortent sur leurs albums dans les versions de luxe ou des trucs comme ça, ou des versions augmentées, ou spécifiquement, mais des EP de remix et tout. Mais globalement, c'est plus le remix conquérant tel qu'il a pu exister à une époque, notamment dans les années 2000 dont tu parles.
Ouais, parce que là, en fait, il y a des remixes qui sont bien plus connus que les morceaux originaux, quoi. Et l'exemple le plus fameux, c'est ce remix de Day Night par Crookers, donc le morceau de Kid Cudi. Ça part d'un échange sur MySpace, quoi. Ça passe pas du tout entre les mains des labels, quoi. C'est vraiment fait de façon informelle. Et ça devient le tube ultime de 2008 qui passe dans tous les clubs sans arrêt. Et ça se fait de façon très organique entre trois artistes, que Crookers sont deux. Et voilà, et c'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est ça qui était intéressant, je trouve, à cette époque, c'est que t'as l'impression que tout est naturel, tout est hyper fluide. C'est en marge de l'industrie, on le fait pas... Bien sûr, il y a toujours, j'imagine, des petits échanges financiers, mais
c'est pas ça pour ça. Quoi.
C'est pas pour ça, et puis surtout, c'est ce que ça va permettre, c'est qu'en fait, avec c'est assez incroyable de se dire ça, mais c'est que avec un remix, même le premier remix de ta carrière, s'il marche dans la foulée, s'il fonctionne sur MySpace ou Hype Machine, dans la foulée, tu peux partir tourner 3 semaines à l'autre bout du monde. Quoi. C'est ce que m'ont raconté certains des artistes, comme Danger, par exemple, qui fait pas un son très qu'on pourrait estampiller Blog House de base, mais qui a été remixé par des artistes de cette époque, qui a été validé même sur le MySpace de Justice à l'époque, donc ça avait une importance, et qui lui a publié ses premiers morceaux sur MySpace. Ça a été repéré, et il me disait un mois plus tard, je faisais une tournée de 3 semaines en Australie, quoi.
En fait, c'est du win-win, parce que ça veut dire que le remixeur, lui, il peut se permettre justement de se mettre à tourner juste parce qu'il a sorti un truc, et la personne remixée peut pénétrer des cercles musicaux vers lesquels il ne serait pas rentré sans avoir été remixé par...
Bah ouais, c'est ça. Je pense que par exemple, tous ces artistes plutôt indie rock qui viennent essentiellement de l'Angleterre, le fait de se faire remixer par tous ces artistes, tous ces DJ, ça leur ouvre des portes dans les clubs et puis auprès d'un autre public, quoi, comme tu dis. Ouais, c'est clairement une ouverture vers d'autres sphères, quoi.
D'autres horizons.
J'imagine que pour nos auditeurs, ils n'arrivent pas encore à mettre le doigt sur le commun entre tout ça. Alors, il y a la période, on parle des méthodes, à la fois Internet, home studio, MP3, etc. Mais alors, il y a du commun à plusieurs niveaux. Bon, déjà, il y a des esthétiques quand même qui peuvent être partagées entre certains. Par exemple, il y a l'esthétique électroclash.
Ouais.
Qui est justement un peu... ouais, c'est une des faces de la Blog House. Tu peux nous parler rapidement, c'est quoi l'électroclash
Ouais, bah là, on est encore sur un versant un peu club, mais d'une esthétique plutôt rock, new wave, en tout cas, très synthétique, très, très années 80. Beaucoup moins flashy que ce que va être la Blog House, mais c'est vrai que c'est une scène qui est portée fin 90, début 2000 par des artistes, beaucoup d'artistes français d'ailleurs, Misky Teens, The Hacker. Évidemment Vitalik, et en fait c'est soutenu, tout se passe beaucoup autour d'un label allemand qui s'appelle Gigolo, qui est porté par DJ L, et en fait c'est vraiment lui et tout ce label qui vont porter l'électroclash, et ça va devenir un vrai courant justement au croisement du 20e et du 21e siècle. Et en fait le parallèle avec l'électroclash, il est intéressant parce qu'il y a ce côté outrance qu'on retrouve beaucoup dans la Blog House.
Côté punk, quoi.
C'est ça, ouais, très punk dans l'approche, très je m'en foutiste. Et en fait, il y a aussi du coup un parallèle évident, et c'est aussi pour ça que j'accorde un chapitre à l'électroclash, que je pense que déjà ça pose les bases. Et il y a le fait que Never Be Alone, qu'on a écouté tout à l'heure de Justice, a été publié sur Gigolo Records avant, en parallèle au fait d'être publié sur Headbanger. Donc il y a un héritage qui est assez évident entre ces deux scènes, même si c'est pas totalement la même musique, mais en même temps les héritiers de l'électroclash, je pense par exemple à Crystal Castles ou CSS, sont contemporains de DJ Mehdi, de Justice, de Boys Noise.
Et ils se croisent en fait.
Il y a des croisements. En fait, généralement c'est sur les mêmes scènes, il y a des plateaux parfois, en tout cas dans certains festivals. Et puis il y a aussi Justice n'a pas remixé ni Crystal Castles ni CSS, mais en tout cas il y a des remixes aussi de ces groupes-là par les artistes estampillés Blog House. Donc il y a cette même dynamique, quoi.
Faut qu'on s'écoute. On n'a pas cité quand même, parce qu'en représentant l'électroclash, Peaches, c'est quand même
Peaches,
important.
Énorme. Ouais.
On cite Peaches d'ailleurs dans le prochain épisode d'Az.
Oui.
Parce qu'on a parlé avec quelqu'un qui a très bien connu cette période berlinoise. voilà, on ne spoil pas, mais on y reviendra.
Et Peaches qui revient avec un nouvel album.
En ce moment
Là, en février, mars, je ne sais plus, j'ai plus la date exacte. Mais ouais, c'est...
Bon, et qu'est-ce qu'on pourrait s'écouter? Alors, parce qu'il y a Misky Teens, The Hacker, il y a Peaches, il y a Vitalik, il y a aussi leurs descendants qui peuvent être donc Crystal Castle, ou même Sexy Sushi aussi d'une certaine manière, et issu un peu tout ça. Moi, j'aime beaucoup aussi Sexy Sushi.
On peut s'écouter.
Il y a des morceaux, toi, que t'aimes bien, un peu estampillé électroclash, tu vois.
Bah, l'un des grands classiques, je pense, c'est y a Frank Sinatra de Misky Teens et The Hacker. Et d'ailleurs, en lien un peu pour l'anecdote, bien sûr, ça c'est peut-être des interprétations, mais c'est vrai que Vitalik, par exemple, son album OK Cowboy, qui sort en 2004, je crois, extraordinaire, ouais. Et c'est vrai qu'il expliquait que cet album, en fait, il avait voulu le publier à l'époque je sais pas si Because existait sans doute déjà, mais en tout cas auprès de Emmanuel de Burtel, donc le grand patron.
Et chez Virgin avant, non,
ça devait, c'est
ça,
pour ça, je sais plus si c'est sur Because ou Virgin de label, mais en tout cas via cette personne, via ce producteur et directeur artistique. Et en fait, l'album ne lui a pas du tout plu. Et en fait, il y a ce truc où on peut se dire, bah, peut-être que le fait de produire Justice dans la foulée, c'était un peu le... voilà, on a compris qu'on est passé à côté d'un très bon album. On se rattrape derrière.
On s'écoute le Miskitty.
Allez,
c'est parti. L'exemple est bien parce que ce qu'il faut dire au tir. Alors, donc là, c'est l'électroclash, mais en fait, tout ça se mêle aussi avec les années Bloghouse, d'autres artistes, etc. On l'a bien compris. Mais il y a un esprit commun quand même, c'est qu'on est aussi, et là je trouve on l'entend un peu dans le morceau, on est dans un truc un peu aussi adolescent, aussi un peu parfois concon, punk, un peu, comme tu le disais, je m'en foutis, etc. Avec ses aspects cool, et puis ses aspects parfois aussi un peu moins cool, c'est un peu parfois, on n'est pas crête quoi.
Ouais, clairement il y a des morceaux qui sont, qui sont discutables d'un point de vue de qualité, ouais. C'est clair. Mais là, c'est vrai que là, déjà on entend quand même aussi l'héritage très techno, donc plutôt Détroit de toute cette scène électroclash, et aussi le fait que je pense qu'une voix féminine qui raconte un peu des énormités sur des bruits synthétiques, ça fonctionne bien. et en fait, il y a un parallèle aussi avec tout simplement avec un morceau de Monsieur Oiseau où il dit Bruce Willis is dead. Donc y a, là aussi, il y a cet héritage de l'absurdité en fait, comme tu le disais, de même y compris sur la forme quoi. Là, il y a vraiment un parallèle entre ces deux morceaux qui est intéressant à tisser. Et c'est vrai que la Bloghouse, c'est vraiment une musique justement qui puise dans cette énergie de la jeunesse. Quoi. On est vraiment dans une recherche d'outrance un peu en permanence, quitte à parfois flirter avec le mauvais goût, voire l'extrême mauvais goût. Par exemple, il y a un morceau, moi je me rappelle très bien être dans un club où justement tous les artistes un peu de cette génération-là passaient à l'époque. Et un DJ qui à l'époque s'appelait Dooster, maintenant il est un peu plus connu comme King Doudou. Donc c'est marrant, c'est de se dire que ce mec finit par produire pour PNL. Mais à l'époque, en club, il avait passé un remix de La Chenille, quoi. Okay. Et là, je me rappelle qu'on s'était tous... C'était vraiment les petits clubs de 100... Il y avait 100 personnes, quoi. C'est vraiment un peu dans une cave, quoi. Mais
après, La Chenille, ça marche, hein, pardon. Mais...
Bah, je me rappelle qu'on s'est tous regardés en se disant, là, est-ce qu'on a vraiment le droit de danser là,
c'est quoi. Puis comme tout le monde était bourré, on dit, allez, on y va, quoi.
Puis voilà, on a fait La Chenille. Non.
En fait, ça s'inscrit vraiment dans ce hipsterisme, ce cynisme, genre... Rien n'est important, on prend tout au second degré, mais on est très premier degré dans le fait qu'on prend tout au second degré, tu vois. Et ouais. Ça, en fait, le truc se caricature peut-être lui-même, tu vois, parce que on parle des influences punk. Moi, je me rappelle très bien qu'à cette époque-là, j'étais peut-être un peu plus âgé que vous, mais moi et mes pères, on regardait ce truc-là vraiment de très très loin, en mode c'est de la musique de bouffon en fait, parce que pour nous, c'était des punks mais bourgeois, donc c'est complètement, tu vois, c'est une musique jeune. mais d'une certaine jeunesse.
Tu vois, c'est très important ce que tu dis, ouais. Clairement. C'est,
parce qu'il y avait cet aspect-là, en termes de vraiment, enfin, l'aspect social du truc, où, par exemple, moi, je me sentais pas représenté par ces mouvements-là, parce que pour moi, c'était des jeunes de Versailles ou de je sais pas où, qui avaient accès au club où nous, on rentrait pas, tu vois. Et donc, c'est pour ça que ça me faisait gaulerie de me dire, les mecs se revendiquent un peu d'un esprit un peu destroy punk, mais d'un autre côté, sont des bourgeois qui sont peut-être en rébellion contre leurs parents, tu vois, ce genre de poncif qu'on peut avoir. Et je pense qu'il y a quand même une partie de la jeunesse qui est passée à côté de ce truc-là, tu vois, parce qu'il fallait vraiment être dans un certain cercle de clubbeurs, déjà. Tu vois,
déjà de base, ouais. Mais je suis totalement d'accord sur le fait que c'est quand même une... Alors,
c'est une jeunesse un peu dorée.
Je sais pas si c'est des bourgeois ou autre, en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une musique qui est clairement apolitique. Il n'y a pas de vraiment la fête avant tout. C'est un public essentiellement blanc en club, même si ça accueille d'autres classes sociales ou d'autres origines. Mais en tout cas, c'est quand même essentiellement blanc. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Mais après, c'est pas non plus... Même si Paris, je pense que dans ces années-là, c'est le sommet du cool, c'est pas essentiellement parisien non plus. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent de... Bah, par exemple, Sirkin vient plutôt du côté de Nice. Ouais. Bombo vient de Bordeaux. Club Cheval, c'est Lille. Tout n'est pas regroupé... Bien sûr, tous ces artistes finissent par débarquer à Paris, mais comme un peu dans tous les genres musicaux.
Mais ça SM un petit peu partout.
De différentes régions.
Puis ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a les gens qui font cette musique, puis il y a ceux qui l'écoutent. Et effectivement, ceux qui font cette musique, et puis leur public direct, les plus grands fans, ceux qui peuvent les voir en club, etc., je pense que c'est très parisien, et je pense que c'est issu de classes sociales plutôt favorisées.
Oui, bien sûr.
Par contre, parmi les auditeurs, comme il y a Internet, comme il y a ce truc, tu vois, de circulation du MP3, etc., là, par contre, je pense que ça touche des gens un peu plus différents.
Parce que tu vois, on parlait du morceau tout à l'heure qui faisait 7 minutes parce que c'était fait pour faire danser les gens. Ouais. En fait, la question, c'est est-ce que la musique de club, tu l'écoutes en club? Est-ce que tu écoutes ça quand tu vas prendre ton train
Parce que là, on prend des formes un peu plus radicales, si je puis dire. Mais tu vois, quand tu écoutes Justice, c'est pop aussi, tu vois, dans le format. C'est tellement hétéroclite.
Quand on est vraiment dans ces remix de gens qui se captent sur Internet et qui se proposent de machin pour tester. En fait, le testing dont on parlait tout à l'heure, c'est littéralement sur le dance floor. Tu vois, il y a un truc de... est-ce que c'est de la musique? Donc Justice, on est d'accord, c'est tellement pop que tout le monde l'écoute, tu vois, mais il y avait quand même beaucoup de trucs un peu obscurs que finalement t'écoutes pas ça dans tes écouteurs, dans ton Walkman.
Il y a deux exemples, je trouve, si on veut rester sur l'idée du remix, en plus du même artiste, mais il y a A-Track, par exemple, qui a il a remixé à cette époque-là Kilomètre de Sébastien Tellier. C'est un remix où il fait appel à un orchestre pour jouer du violon. Tu vois, ce qui est quand même improbable pour un remix. D'ailleurs, il le disait, le label pensait que j'étais complètement fou. Et en fait, surtout là où je voulais en venir, c'est qu'il a remixé Yeah Yeah Yeahs, qui est à la fin des années 2000, donc qui est quand même un groupe de rock et qui va devenir l'un de ses plus gros tubes. Et en fait, il m'expliquait que ce morceau-là, il a gardé une structure plutôt rock-pop, parce qu'en fait, il voulait que ce soit écoutable aussi bien dans son iPod qu'en club, quoi. Donc, je pense qu'il y a cette recherche de...
Il y a une volonté quand même de...
Il y a une volonté de jouer avec quand même les codes de la pop. C'est vrai que ça déstructure beaucoup, c'est très saturé, c'est très compressé, c'est presque sale parfois. Mais je trouve quand même qu'il y a plein de morceaux qui jouent avec les codes pop, quoi.
Et sur une forme de critique d'ordre plus social, politique, etc. C'est un truc que tu n'éludes pas d'ailleurs dans le livre, puisqu'il y a toute une partie où tu parles déjà de la place des femmes, parce que c'est une scène qui a quand même assez peu laissé la place aux femmes. Et puis tu parles, par exemple, tu cites à un moment Tequila Tex, qui a été quand même une figure aussi importante dans tout ça, à la fois avec TTC, mais de manière générale en tant que DJ dans les clubs, a justement aussi joué énormément de musique électronique, de rap, etc., à mélanger les genres. Tu vois, tu le cites, il dit « On passe sous silence le côté boys club de cette scène, avec certaines chanteuses qui étaient là pour réaliser le fantasme gasborien de producteurs dans l'ombre, les femmes agressées et l'endogamie de ce milieu-là, tous ceux qui ne rentraient pas en club parce que pas assez lookés, comprendre assez blancs, nous n'avions pas la 4G et cela nous permettait de ne regarder que ce qu'on voulait. » Donc voilà, c'est pas éludé.
Ouais.
Mais c'est un des aspects, effectivement, de tout ça.
De l'évoquer, ouais.
Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'encore une fois, c'est les années Blockhaus. En fait, il y a tellement de gens différents. Alors, ils se fréquentent tous, ils se croisent tous à un moment ou un autre. Il y a des bandes, il va falloir qu'on en parle. Parce qu'il y a la bande Kitsune, la bande Institute, la bande Headbanger, justement, etc. Et tout ça, souvent des gens plutôt issus de milieux favorisés, c'est vrai, etc. Et en même temps, gravite autour un DJ Mehdi, tu vois, qui lui n'est pas issu d'un milieu favorisé. Enfin, c'est vraiment, et puis en termes de sonorité, encore une fois, alors déjà là, avec les quelques extraits qu'on a écoutés, on voit que c'est varié, mais il faut qu'on continue là-dedans, parce que on pourrait même parler de, tu vois, de LCD Sound System, on pourrait parler de Jackson and his Computer Band, qui voit des énormes inspirations. Le son de Justice, par exemple, c'est vrai que quand on écoute Jackson and his Computer Band,
c'est assez flagrant,
c'est
je trouve.
C'est un truc de ouf.
Ouais, ouais, c'est, en fait, pour moi, c'est un peu le Jackson and his Computer Band, c'est un peu le alors pas le génie incompris ou discret, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a, en tout cas c'est ce qu'il m'expliquait, c'est que lui il a jamais voulu que sa musique soit performative, donc il est resté dans une esthétique électro assez saturée mais quand même presque IDM, voilà, beaucoup plus complexe que ce que d'autres artistes de cette génération ont voulu faire, donc il a jamais cherché à faire, déjà il a pas tourné en tant que DJ ou très peu, donc il a pris une autre orientation, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le son headbanger trouve son origine, en partie bien sûr, dans la musique de Jackson and his Computer Band. Et je trouve ça d'ailleurs même très intéressant, son nom de scène, qui reflète un peu tout l'esprit de cette génération, en tout cas, plus globalement, des artistes de musique électronique, quoi, où en fait, on fait de la musique avec un ordinateur, comme si c'était un groupe de musique en tant que tel, quoi.
On va s'en écouter un morceau.
C'est d'ailleurs assez terrible. On peut s'écouter du Jackson and his Computer Band. Ce qui est terrible, en plus, c'est que lui, il n'a jamais... Enfin, il n'a pas récolté vraiment les fruits de ça. Alors, non. C'était un pionnier.
C'était, ouais.
C'est pas Justice comme... en termes de monnaie. Hein.
C'est la même chose. Mais comme beaucoup de pionniers, ouais, c'est quelqu'un qui veut rester plutôt en retrait. En plus, il a pour lui le fait d'avoir publié deux albums avec des années de distance. Je crois qu'il s'écoule plus de 7-8 ans entre les deux albums. Donc, il n'a pas surfé, ouais, sur toute cette scène-là. Mais je pense qu'en fait, il a juste pas. C'est pas le. Pour l'avoir eu la chance de le rencontrer, alors qu'il est quand même très discret, je pense que c'est quelqu'un de profondément artiste, comme on peut se l'imaginer. Mmh. Et donc un peu hors de ces considérations-là, purement.
Enfin, très bon en administratif, quoi.
C'est ça.
On peut s'écouter Rock On, par exemple.
Ouais, qui est un super morceau, ouais, clairement.
Si on n'entend pas du Justice ou du Sébastien,
ouais, c'est compliqué. Derrière, ça,
Le côté hyper coté, le côté presque comme des riffs, traité comme des riffs de guitare. Tain, ouais. Tain, tu vois, des trucs comme ça.
Et il a vraiment ce truc pour l'impression, dès qu'il pourrait partir vraiment dans l'Energy Club,
ouais.
Il cut et ça. Ouais. En fait, il a l'impression qu'il refuse vraiment d'aller vers ça.
Alors, pour remettre peut-être un peu de clarté dans tout ça, parce que c'est vrai que musicalement, ça va un peu partout, il y a plein d'artistes différents, on en a cité plein, etc. Peut-être qu'on peut s'attacher un peu aux bandes, parce que justement, elles permettent d'y voir un peu clair qu'il y a des gens quand même qui gravitent autour d'un univers, autour d'un label, etc. Mmh. Bon, Headbanger, je pense qu'on connaît tous quand même assez bien, autour de Pedro Winter. Là, évidemment, il y a le lien avec Daft Punk en plus, voilà, donc Sébastien, Justice, etc. On parlera un peu de filles aussi. Autre lien avec Daft Punk, c'est marrant, c'est la clique autour de Gildas Loek, je sais pas comment faut le prononcer.
Je pense que c'est comme ça, ouais. C'est vrai que je pense que j'ai jamais entendu de vive voix son nom, donc je dirais comme ça aussi.
Et ce qui est marrant, c'est que c'est quelqu'un qui était dans l'entourage de Daft Punk, qui les accompagnait à leur début.
Ouais.
Et qui va monter son propre label, Kitsune. Alors en plus avec une vision, parce que Kitsune, ils ont été extrêmement malins, c'était à la fois des vêtements, c'était tout un lifestyle. Mmh. Et
la maison.
Ah ouais, ils ont vraiment été, eux, je suis assez impressionné par ce qu'ils ont fait. Il y a même des cafés Kitsune, etc. Ouais, ouais, c'est
7 euros le latte.
C'est horriblement cher, mais comme les vêtements d'ailleurs sont
tout
horriblement
chers. Tout est
cher.
Très cher chez Guess.
C'était un peu le côté justement, Headbanger, c'était un peu les ados MTV, un peu on fait la fête et on s'éclate. Mmh. Kitsune, c'était un peu plus la classe, tu vois, c'était un peu plus raffiné.
C'est ça, ouais, c'est vrai que si on prend les marques un peu emblématiques de des fans, enfin en tout cas de ceux qui ont été acteurs ou spectateurs de ce mouvement-là, on est plus sur du Urban Outfitter, sur des American Apparel, qui était déjà quand même un peu cher, American Apparel en plus. Mais
tu parles vraiment des vêtements que les gens portaient.
Ouais. Et Kitsune, ouais, c'est encore une classe au-dessus. On est vraiment sur le mec stylé qui vient d'Angleterre. On est vraiment sur ce type de fringues-là, un peu costume, qui va en boîte de cette façon. C'est encore une autre esthétique, quoi. Mais
équipe musicalement joue quand même aussi l'avant-garde, peut-être même un peu plus que d'autres, ou vraiment et la diversité à fond. Alors, je sais pas si t'as certainement plein d'exemples, mais moi un des marquants, c'est quand même Digitalism, par exemple, ouais, qui est un groupe qui va marquer.
Clairement, avec des morceaux comme Pogo ou même Starlight, en fait, qui est finalement un lien encore une fois évident avec la première génération de la French Touch, quoi. Mais Kitsune a été hyper hyper important pour faire naître, pour faire émerger des artistes de cette époque, qui est un ancrage beaucoup plus indie, encore une fois. Il y a vraiment cette connexion avec l'Angleterre, tout simplement parce que Gilda, justement, c'est quelqu'un qui a beaucoup traîné dans le Manchester des années 80. Donc, il a cette culture indie, le croisement, les Stone Roses, la P Mondays, tout ça. Donc, je pense que ça, c'est sa culture. Et qu'avec Kitsune, il offre une relecture, une seconde version à toute cette esthétique-là. Et via les compilations, en fait, Kitsune, qui sont... Moi, à titre personnel, je me rappelle très bien, dès qu'il y avait une compilation Kitsune, je l'écoutais en boucle, je me disais, je vais forcément découvrir des trucs géniaux. Ce qui était souvent le cas, Metronomy, Klaxons, Digitalism, tout ça, on commençait en se sont fait connaître via les compiles Kitsune. Et c'est vraiment un marqueur aussi de cette époque. Et ça c'est l'un vraiment des trois labels français, et donc quelque part les trois labels à l'échelle internationale qui posent les fondations et qui incarnent quelque chose d'hyper important. Mais ça rejoint ce que tu disais aussi tout à l'heure sur t'employer le mot hipster. Kitsune, c'est sa puissance. Les compilations sont vendues chez Colette. C'est
la quintessence de...
Ouais. Voilà, ça touche une classe... Là, encore une fois, ça touche une classe sociale qui est différente.
Mais jusqu'à... comment il dose ce truc-là? Parce que c'est... Le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les hipsters, à la base, c'était des gens qui étaient un peu en marge et qui avaient un sens aigu de plein de trucs, aussi bien musical que mode. Le problème, c'est que ils sont tellement restés entre eux qu'à la fin, ça devenait presque ridicule, en fait, tu vois.
C'est peut-être ça, ouais, qui a contribué en partie à éteindre, en tout cas, toute cette énergie, quoi. Mais c'est clair qu'après, ça crée peut-être une sorte d'entre-soi. C'est peut-être ce qu'il y a...
En fait, c'est ça, c'est que le terme hipster, alors peut-être que je me fourvoie, mais moi, je trouve qu'il est ultra connoté. Quand tu dis que quelqu'un, c'est un hipster, c'est pas qualitatif. Tu vois, c'est une insulte, en fait, de dire, ah ouais, connard de hipster, tu vois.
Ouais, alors je sais pas, cette période-là, à ce moment-là, je sais pas comment c'est vécu. Je sais qu'il peut y avoir le phénomène de la barbe à un moment, etc. Ça, tu as barbe, bonnet d'ailleurs.
Je sais bien. C'est bien le problème. C'est copieur, là.
Et tu vois, et là, on parlait du hipster de manière un peu plus positive. Voilà, c'était un look. Enfin, c'est pas forcément pour se foutre de la gueule des gens, tu vois.
Non, c'est pas ça, c'est que.
Il y a celui qui cherche à se distinguer, clairement, et qui le montre, quoi. Ça, c'est vrai.
Le hipster, vraiment, c'est pas forcément quelqu'un qui a. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle de cette figure-là, c'est pas quelqu'un qui a forcément des goûts affirmés, mais c'est quelqu'un qui va plutôt aller dans certains trucs où il est supposé être attendu, tu vois, et il va pas aimer un truc parce qu'il l'aime vraiment. Il va l'aimer parce qu'il faut l'aimer, parce que c'est comme ça, tu vois, c'est plus de la mode, du phénomène de mode.
C'est qu'il y a des choses qui peuvent pas être critiquées, même si t'aimes pas trop, t'y vas parce que c'est là où il faut être.
Il y a une démarche qui est intéressante comme ça dans le bouquin. Je crois que c'est par Awan à nouveau, tu discutais avec lui et tu...
Là, c'est quelqu'un d'hyper intéressant.
On l'a reçu dans l'émission.
Ouais, j'adore cet artiste.
Et il raconte un truc, à un moment, il dit, nous, on était aux extrêmes de la musique, c'est-à-dire que on pouvait adorer des trucs hyper pointus, y compris des trucs à IDM, des trucs à Aphex Twin, etc. À côté de ça, on pouvait adorer Britney Spears, des trucs les plus pop mainstream le plus possible. Par contre, l'entre-deux, c'était pas possible.
Ouais.
C'est-à-dire qu'un Black Eyed Peas qui se ramenait, qui faisait en fait un truc hyper mainstream, mais en réalité, tu vois, ils faisaient genre, non, mais nous, c'est un peu plus pointu. Alors qu'en fait, tu vois, c'était de la pure pop, machin, etc. Là, c'était insupportable pour eux. Mais bon, moi, c'est soit Britney Spears, soit Aphex Twin, mais pas entre les deux. Arrêtez, on n'y croit pas. Il y avait un truc avec comme ça.
Ouais, mais
ça, c'est un peu un côté hipster. Ça,
ouais, complètement, complètement.
Bah, clairement. Et puis, ça rejoint le déjà ce qu'on disait sur Solo Max, soit capable dans un même mix de passer du Kylie Minogue ou du New Order, enfin il y avait ce truc de grand écart. Et puis Parwan le cache pas, quoi, tu vois, ils avaient une approche avec Institube qui était très alors hautaine, c'est pas le mot, mais en tout cas ils avaient l'impression d'être des laborantins et donc voilà, de réinventer quelque chose de complètement, enfin d'inventer une musique complètement nouvelle avec une approche complètement inédite, des idéaux très artistique en fait finalement, et donc oui, là on est clairement enfin on peut rapprocher ça des hipsters, bien sûr. C'est là, on est clairement dans ce truc où on fait la musique à la mode, on fait une musique de niche mais en même temps très cool. C'est très cool de nous écouter, en plus on fait des t-shirts qu'on a enfin que les jeunes en club ont envie de porter. Ça crée des repères et donc ouais,
et en même temps, pour contrebalancer, ça c'est une réalité. Mais il y a aussi d'autres réalités autour de cette scène, c'est que, donc là on a cité Headbanger, on a cité Kitsune, l'autre grand label c'est Institubes, notamment avec une fille, alors tu parles de Paramount, etc., mais il y a une figure comme Tequila Tex, qui est hyper important pour Institubes, et Tequila Tex en tant que DJ, et c'est pas le seul, hein, mais d'autres gens, c'est parmi les premiers, je pense, en France, qui mettent du baile funk en soirée, par exemple.
Ouais, clairement.
Qui
c'est aussi le premier à organiser une soirée grime à Paris, Tequila Tex.
Et donc, en fait, oui, il y a le côté distinction, et puis ça, machin, mais c'est aussi des mecs qui réellement une connaissance de la musique, pour certains en tout cas, des mouvements plus underground, et qui sont capables de les amener à un public qui ne serait jamais tombé dessus, quoi. Donc ça, c'est quand même aussi une des valeurs de cette scène.
Ouais, bah, clairement. Et puis d'ailleurs, pour préciser que la citation de tout à l'heure de Tequila Tex, c'est une citation qui vient de Libération. Oui. C'est pour j'ai oublié le nom de la journaliste, désolé à elle, mais désolé pour elle, mais c'est juste pour lui rendre.
Que tu cites.
Oui, parce qu'en fait, Tequila Tex, on a échangé beaucoup entre lui et moi, mais n'a pas voulu participer en tant que tel. Bouquin, parce qu'en fait, il veut plus trop parler de la blague à ouf. Je pense que c'est quelqu'un qui est toujours dans le futur. et ce que j'entends, c'est ok, ça a été fait de façon très très polie, très respectueuse. Donc c'est très cool. Mais c'est vrai que Tequila Tex, il a même au sein de son entourage, c'est quelqu'un qui c'est tactile, par exemple, donc un autre gars de TTC.
D'ATK.
Ouais. Et d'ATK et qui d'ATK, est cofondateur de d'Institut. Qui disait qu'en fait Tequila Tex leur a montré le futur, en fait, qu'ils y croyaient pas du tout à cette musique au début, à ce versant club, tout ça. Et c'est vraiment Tequila qui les a amenés vers tout ça, qui leur a fait comprendre la baile funk, le grime, et tout ça, ça a créé une ouverture. Et après, on sait que TTC s'y engouffrait, qu'après, enfin, Tequila Tex a monté San Pellegrino aussi, qui est un label purement techno. Donc ouais. Tequila Tex joue un rôle central dans toute cette période. Mais je ne sais plus c'était quoi exactement la question, juste égaré.
En fait, c'était pour illustrer ce paradoxe entre à la fois un truc déjà qui sera relativement éphémère, beaucoup dans l'apparence, beaucoup dans la posture, le côté hipster, machin, etc. Et en même temps, des artistes aussi parfois hyper pointus, hyper intéressants. Tu vois, on parlait d'A-Track qui gravite aussi autour de ça. A-Track, c'est un mec qui est multiple champion d'EMC, donc DJ hyper talentueux, le plus jeune, je crois, champion
jeune,
d'EMC
à l'époque,
de l'histoire, qui ensuite d'ailleurs va partir en tournée avec Kanye West. Et en même temps, il fait partie de cette scène aussi. Enfin, en tout cas, il est proche de tout ça. D'ailleurs,
en fait,
avec
pour
son
moi,
frère
c'est
Chromeo aussi.
Pour moi, c'est normal parce que les DJ ont toujours été. Enfin, la figure du DJ, c'est justement de chiner des trucs et d'être toujours sur la brèche, tu vois. Et justement, c'est pour ça que quand t'observes dans le hip-hop, notamment les figures des groupes qui se montaient, t'avais toujours un DJ qui généralement était plutôt issu de bonne famille, et après t'avais le ou les rappeurs qui eux étaient là pour les textes et qui avaient généralement moins de moyens et moins d'accès à justement la culture, le voyage, ce genre de trucs. Et c'est comme ça que ça marchait.
Ouais.
Parce que le DJ, lui, il allait à New York, il ramenait des trucs, tu vois,
ouais,
il ramenait ça au quartier et les MC rappaient dessus. Mais pour moi, c'est complètement logique qu'une figure tutélaire comme le DJ soit justement développe après des... Enfin, permettre d'amener de la lumière sur des...
Ouais, il crée un socle sur lequel on va pouvoir ouvrir
en fait, c'est complètement dans la continuité de ce qu'est un DJ à la base, tu vois. Plus que quelqu'un qui passe des disques pour passer des disques et faire danser les gens, il y a quand même, pour moi, ce côté, bon DJ, c'est... le mec, il écoute de la folk indonésienne, tu vois. Puis, peut-être que ça peut marcher si on change le BPM, et puis des fois, ça marche. Puis des fois, ça marche pas.
D'ailleurs, c'est intéressant dans la partie, quand tu parles des remixes, tu parles de cette culture du DJ aussi. Il y a des mecs qui disent, de cette époque, ils disent, mais en fait, moi, je préfère faire des remixes que produire. C'est-à-dire que je suis plus un DJ qu'un compositeur.
Ouais, parce qu'ils ont pas forcément les idées, le bagage ou autre pour déjà faire un morceau peut-être pour eux, puis même envisager un album. En fait, ça leur paraît beaucoup trop loin. Puis en plus, c'est pas tellement la culture des musiques électroniques, en fait, de base. Il y a beaucoup de très grands producteurs, très grands DJ qui ont jamais sorti d'album, ou alors juste un pour dire deux, quoi. Mais, et c'est vrai qu'eux, ils vont chercher autre chose. On est vraiment dans l'instantanéité, en fait, à ce moment-là. Il n'y a pas de... Je pense qu'il y a... D'ailleurs, beaucoup de ces artistes-là vont sortir des albums, mais plutôt en 2011, 2012, 2013, donc trop tard. Mmh. Et ces albums vont être plus ou moins bien reçus, plus ou moins bien mal reçus, parce qu'en fait, ils sont plus dans le moment, en fait. Il y a plus de la tendance est passée et leur album paraît déjà un peu daté. Ce qui arrivait c'est arrivé pour Uffy, c'est arrivé pour Sirkin, c'est arrivé aussi un peu pour Sébastien aussi, finalement. Son album, c'est pas des mauvais albums en tant que tel, mais ils sortent trop tard,
ouais.
Et ils ont mis trop de temps à un peu sortir de ces moments de fête constante. Et après, ils sont en décalage.
Quand ils sortent, effectivement, donc c'est des titres qui sortent un par un, en fait. Parce qu'on est aussi dans... On commence à arriver dans cette ère de... Enfin, il y a déjà iTunes, donc la consommation au morceau,
ouais,
plutôt que sur un projet complet. Du coup, ouais, tous les titres qui sortent, c'est des one-shot, en fait, à chaque fois.
Bah, globalement, il y a des artistes, genre, par exemple, les artistes français comme les Petits Pilous ou Don Rimini ont sorti finalement très très peu de morceaux, mais ils ont tourné avec un morceau pendant 2 ans. Et ça leur... Après, ils ont juste fait des DJ, enfin, juste, sans que ce soit péjoratif, mais ils ont fait des DJ sets, ils sont contents, enfin, ils ont tourné avec ça, quoi.
Ouais.
C'est assez.
Ce qu'on peut faire, c'est. Parce que c'est important, là, ce que tu viens de dire, c'est une culture du single, etc., et qui est liée, en fait, aussi, justement, au MP3, au web. Mmh. Et ce que je propose, c'est qu'on écoute, genre, 2 morceaux. Un, peut-être, parce qu'on a parlé de Digitalism, puis un de TTC ou Tequila Tex apparaît quand même, parce qu'on l'a aussi beaucoup évoqué.
Ouais, bah, clairement.
Pour Digitalism, on s'écoute Pogo ou Idealistic ou encore autre chose ou...
Ah, Pogo, c'est, je pense, un peu leur énorme classique. Ouais.
Ok. Et puis pour TTC, on en parle après, on voit.
Ça marche.
Trop bien ce morceau, moi j'adore.
Très chouette.
Ouais, je trouve qu'on entend très bien la filiation aussi avec Solwax, sur le travail sur les basses, sur les nappes comme ça qui sont un peu omniprésentes. Je trouve que c'est évident.
C'est un peu, alors il y a le côté très UK quand même déjà, et le côté c'est un peu plus classe. Voilà, c'est Kitsune, c'est un peu moins gras et,
c'est
moins
cut. C'est mieux produit, oui, clairement, enfin plus finement, quoi.
Mais ça a figuré sans problème sur l'écran d'accueil de FIFA, par exemple.
C'est vrai,
ouais, c'est vrai.
C'est de fou, ça pourrait complètement. Bah, limite, dans la continuité, un blur, un truc comme ça, qui avait fait des FIFA, tu vois, des trucs comme ça.
Ouais.
Effectivement. Oui, TTC quand même. Bon, il y a Dans le club qui est quand même un de leurs grands classiques. Mais on peut s'écouter autre chose aussi, t'as une idée hein?
Bah, j'allais dire Dans le club, même si c'est ouais, évidemment c'est leur classique, mais je pense que c'est le morceau un peu qui les ramène, enfin qui crée vraiment le lien avec cette scène. Et surtout, je pense que c'est devenu un morceau qui était souvent joué aussi dans les clubs de l'époque, parce qu'il s'y prêtait totalement. Quoi.
Allez, on s'écoute ça Dans le club TTC. Cet album il était hyper novateur.
Ouais, totalement.
Par contre, c'est clair qu'aujourd'hui, et je crois que même eux, ça les met parfois mal à l'aise, tu te questionnes sur une partie des paroles, etc.
Même l'une des craintes de Tequila Tech, justement, qui disait ça en interview, qu'en gros, aujourd'hui, il avait. Enfin, déjà à l'époque, en fait, il avait peur que ses chansons deviennent des chansons paillardes pour des étudiants en école de commerce, quoi. Ce qui est malheureusement devenu un peu le cas.
Notamment avec Girlfriend, qui est mythique, ouais. Entre guillemets, ouais. Qui est tournée chez tous les adolescents de l'époque, mais qui est problématique aussi.
Ouais, en soi, bien sûr, c'est une génération, et pas que d'ailleurs TTC, mais oui, en tout cas, les paroles sont problématiques, peuvent être mises en cause, notamment en plus tout le versant de ces DJ qui s'inspirent un peu plus de la bouticole, les choses comme ça, donc avec des paroles beaucoup plus crues, souvent pornographiques. On est clairement sur une image de la femme qui est pas dingue.
Parce qu'en fait, effectivement, c'est dans plusieurs, enfin en tout cas, dans au moins une interview, je crois que tu la cites d'ailleurs, Teki a dit que eux c'était aussi une référence à la ghetto house, ouais. À ce rap américain quasi porno où on y va à fond, etc. Et on comprend, mais le problème c'est que les mecs qui ont fait ça à l'origine, est-ce qu'ils étaient vraiment dans le respect des meufs, etc. Je suis pas certain. Donc quand tu fais référence à ces types, est-ce que tu arrives à véhiculer le truc en cassant un peu le code? Je sais pas, en tout cas, il s'insérait. Je sais pas comment dire ça.
Mais il y a eu un shift aussi qui a été assez brutal en vrai sur ces aspects-là.
Oui, c'est vrai. Non, c'était pas mal vécu à l'époque, il faut le recontextualiser, ouais, c'est vrai. Ça n'a pas tant choqué que ça.
À l'époque, tu vois, tu parlais de Parawan qui a produit pour Tout Simplement Noir. Putain, et le premier album dans Paris Nocturne, il y a des trucs dessus. Moi, je réécoute parce que musicalement, je trouve que l'album
il est incroyable, cet album. Ouais.
Mais le problème, c'est que les lyrics, je peux pas les faire écouter avec ma fille à côté, tu vois, parce que c'est pas possible en fait. Et
ça va très loin d'ailleurs.
C'est ultra misogyne. Ouais. C'est vraiment à la limite de la violence, tu vois. Et je pense à un groupe comme Bass Click qui a featuré aussi avec les X-Men et qui justement ramenait un peu les lyrics de la bass music, de Two Life Crew, de tous ces trucs là qui étaient archi cru et qu'on pouvait écouter en France parce qu'en fait on comprenait pas les paroles. Et le problème c'est que quand t'essaies de le faire en français, ben là tu peux pas te cacher derrière ah ouais mais ça bounce, parce qu'en fait les paroles sont horribles, tu vois.
Et en fait une façon, parce qu'à la limite rendre hommage ou faire référence à des musiques comme ça, pourquoi pas, mais la seule façon de désamorcer ça, c'est de s'intégrer dans la satire, c'est de se moquer de soi-même, c'est de machin, etc. Et là, en fait, sauf que, en général, c'est toujours les meufs qui prennent et eux rarement s'incluent, tu vois, dans le truc où
ouais, non, clairement, il n'y a pas cette autodérision, pardon. En tout cas, sur ce plan-là, c'est clair qu'elle n'est pas là. Mais de toute façon, c'est vraiment et comme beaucoup d'autres mouvements de l'époque et encore aujourd'hui, de toute façon, c'est un mouvement essentiellement masculin et même en club, même si, bien sûr, en club, il y a toujours eu des filles et il y en aura toujours. Mais c'est une génération où on dansait pas sur la musique électro comme on danse, on peut dire habituellement, sur la musique électro. Il y avait cette énergie rock, un peu hip-hop aussi. Donc, en fait, ça pogotait dans les clubs. Et forcément, dans les pogos, c'est pas les filles que tu vas retrouver.
Dans le rap aujourd'hui, d'ailleurs, où le pogo s'est imposé.
Ouais, c'est ça. Et donc, c'est très physique, en fait. Et donc, les filles, même en club, je pense qu'il y avait ce côté un peu en retrait. C'est les mecs qui dominent. Et il y a même... je pense, d'ailleurs, pour le bouquin, j'avais rematé le documentaire sur Justice. Là, on les suit dans leur tournée.
Qui est très
cool, mais on est vraiment sur cette image de sexe, drogue and rock'n'roll. Et il y a des scènes dedans où, alors bien sûr, on a l'impression qu'ils s'amusent et tout, mais parfois, il y a des filles qui traînent avec eux à ce moment-là. Il y a des insultes, il y a vraiment cette image de rockstar. Avec le côté malsain que ça peut sous-entendre, quoi. Donc non, tout n'est pas irréprochable.
Bien sûr. Et d'ailleurs, après on parlera du web et de la culture club parce que c'est lié. Mais tu prends le destin notamment de Huffy, celui d'Yel aussi. Alors c'est un peu différent, mais dans les deux cas, je considère que c'est des meufs qui n'ont pas eu la carrière qu'elles auraient dû avoir. Alors en particulier Yel, parce que qui a continué elle derrière, qui a fait en vérité une belle carrière, mais qui aurait pu être tellement plus.
Ouais.
Alors que c'est une super artiste, je pense. J'aimerais bien la recevoir d'ailleurs un jour. Je sais pas si t'as un contact avec Yel, mais moi Huffy, alors elle était peut-être moins talentueuse, elle avait peut-être moins le mental aussi, c'est un peu ce qui ressort du bouquin. Tu racontes un peu l'histoire autour de. Donc elle est signée, enfin elle fait des morceaux avec Feeds, sortie chez The Banger, etc. Il commence à avoir une hype complètement folle. D'ailleurs, elle va influencer avec seulement quelques morceaux. Aujourd'hui, une meuf comme Charlie XCX,
qui l'a cité, clairement. Et d'ailleurs, Charlie XCX, il y a quelques années, elle a fait un morceau avec Feeds. Donc il y a vraiment cette. Je pense qu'elle est honnêtement très fan de ce que Huffy a pu représenter dans les années 2000. Quoi.
Et en même temps, c'était aussi l'imagerie, c'est parce que c'était une meuf, tu vois, il y avait vraiment ce truc de cliché autour de la femme, de ce qu'elle est censée représenter. Elle était complètement dans le truc sex, drug and rock and roll, justement, avec le regard complètement du male gaze à fond, Ce qui déjà interroge aujourd'hui, et surtout en fait derrière.
Bah, qu'elle était très jeune, quoi. Elle avait 20 ans à peine, quoi, à ce moment-là. Donc,
Et le fait qu'elle n'ait pas construit une carrière, alors il n'y a pas que cet élément-là, mais le fait qu'il y avait déjà peu de modèles féminins. C'est dit d'ailleurs le bouquin.
Mais ouais, mais c'est en fait.
Il n'y avait pas de meuf DJ par exemple, tu vois.
C'est des nerds, les mecs. Tu vois, enfin, c'est littéralement des mecs qui, en fait, quand ils étaient, je pense, hein, là, projection, tu vois, mais de mon point de vue, ces gars-là, en fait, ils ont jamais pécho de meuf avant d'être connus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand t'es un nerd, quand t'es un buté, tu vois, en fait, t'es chez toi, tu fais du son, tu fais que ça, bah, tu sors pas, en fait, t'as pas le temps de, tu vois. Et donc, ce rapport à la machine, ce rapport au matos, c'est quelque chose qui est très, très masculin aussi.
De base.
C'est assez rare, en fait, d'avoir des meufs qui, tu vois, achètent des sampleurs et achètent des platines et font du son dans leur chambre, en fait, parce que bah, la société t'éduque pas à faire ça. Quand t'es une meuf, c'est peut-être très connoté.
Parce qu'il y a pas les modèles, notamment.
Ouais, tes parents vont dire, bah non, on fait pas ça, tu vois, parce que t'as rien à foutre là, en fait. Ouais. Et du coup, bah, les meufs ne s'orientent pas vers ces trucs-là, alors que un gars qui est dans sa chambre en train de geeker, comme on dit. En vrai, les parents, ils sont en mode, ah, bah, c'est bien, au moins, quand il est là, il n'est pas ailleurs en train de faire des conneries, donc vas-y, continue, mon chéri, tu vois. Et c'est une culture de Tecos, c'est une culture de Linuxien, tu vois. Donc,
Ça peut jouer. Après, la misogynie, elle vient des hommes en général, pas que des geeks, quoi.
Non, bien sûr, mais je veux dire, c'est. En fait, pour moi, le truc est. Tu vois, justement, je parle de Linux. Si tu regardes les docteurs en informatique, il y a quand même très rarement des femmes, tu vois.
Pourtant, parce qu'il y a un truc culturel de ce qu'on véhicule aux femmes, quelle est leur place, qu'est-ce qui intéresse les hommes, qu'est-ce qui est censé intéresser les femmes.
Ouais, puis on leur fait pas. Ouais, je pense qu'indirectement, elles ont pas de modèle, comme tu dis, pour croire justement qu'elles peuvent aller vers ce type de profession.
Bon, de toute façon, discuter de ça sans meuf autour de la table, effectivement. Mais on avait fait un épisode il y a pas longtemps sur la place des femmes dans l'industrie musicale, qui est assez révélatrice sur toutes ces questions. Mais je voulais quand même, parce que tu t'en parles dans le bouquin, et si on peut dire un mot sur Yel aussi, parce que comment elle a été aussi complètement, y compris et surtout médiatiquement, raccrochée justement à la tectonique. Tu rigolais sur la tectonique, parce que c'est un mouvement parallèle, mais qui lui était vraiment, vu que c'était un mastodonte mainstream, tu vois.
Oui, et puis très bref, encore plus bref. Encore plus bref. Là, on est sur une année, je pense.
Et tu parles de ridicule. Là, vraiment, ça a été tourné en ridicule complètement, la tectonique.
C'est en train de revenir.
Et Yel qui était bien plus que ça.
Malheureusement.
Yel qui était bien plus que ça.
Elle a été réduite à ça.
Mais elle a fait un morceau qui a été effectivement repris par le mouvement tectonique. Elle n'a été que ça derrière. Ouais. Pour beaucoup de gens, alors qu'elle a fait une carrière derrière.
Elle a quand même des. Ouais, ses albums. Alors il n'y en a pas des dizaines, mais en tout cas, ses albums sont quand même très bien foutus. Elle a quand même des singles qui sont devenus très. Extrêmement générationnels. Et évidemment, le premier, Je veux te voir, dont je parle dans le bouquin, en fait, Grand Marnier, qui est le producteur de Yel, raconte l'histoire de. de ce morceau, hein, qui est assez, qui est, l'histoire est assez connue, mais ouais, qui est très...
Ça parle de tequila Tex ou
en fait, c'est surtout de cuisinier, mais ouais, de en fait, en fait, à la base, c'était vraiment l'idée de rire justement et de prendre en fait un morceau de TTC où ça parlait justement de girlfriend, je crois, et donc de inverser les rôles, faire le pendant féminin. Au début, ça, de ce que me racontait Grand Marnier, bien sûr, c'était ça s'est très bien passé. TTC là, en a ri. Et après, je pense que ce qu'il me disait, c'est que devant le succès du morceau, peut-être que les avis ont changé un petit peu, ça a titillé un petit peu. Ouais. Mais après, bon, ça, c'est qui dit vrai, ça, c'est plus difficile de le savoir. Mais en tout cas, ouais, c'est un morceau qui naît plutôt d'une blague, très naturellement, entre deux personnes qui composent ensemble dans une chambre. Et c'est devenu un single phénoménal, Je veux te voir.
Pour moi, quand on parle de Yael, alors c'est peut-être très très réducteur, mais comme c'est pas un style musical que moi j'écoute plus que ça, bah tu me parles de Yael, je vois ce morceau-là, tu vois. Et c'est dommage en fait de réduire l'artiste.
C'est soit ça, soit le morceau avec Michael Youn, quoi, Fatal Bazooka, qui est là où je pense ça a été un énorme succès, mais je sais pas si ça l'a aidé à se crédibiliser en tant qu'artiste pop. C'est peut-être ça. Aussi,
après, le problème, c'est ça aussi, c'est que. C'est ce que je trouve injuste dans ces trucs, dans ces sous-cultures qui sont vraiment, tu sais, sur la ligne de crête, en fait, entre la dérision, le cynisme, le premier degré et machin, c'est que bah, quand ça t'arrange, en fait, c'était full second degré, on rigole et on balance la chenille en club, tu vois. Et puis sinon, ah bah non, mais là, par contre, ton truc, c'était ridicule, tu vois. Et puis c'est nous qui décidons que c'est ridicule, donc en fait, ça va te niquer ta crédibilité, tu vois.
Je comprends, et en même temps, tu sais, c'est. Je trouve qu'il y a une certaine valeur à dire en tant qu'artiste. On avait discuté un peu de ça avec Miel de Montagne d'une certaine manière. Le second degré, l'humour, machin. Alors c'est différent avec Yael, mais on a le droit aussi d'être sur un morceau complètement dans le léger, dans le dérisoire, dans le ridicule.
Ah, moi, je suis 100% d'accord.
Hyper sérieux, etc. Mais on a du mal parfois, c'est vrai, à accepter d'avoir ces propositions si variées.
Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que je pense que c'est les tenants c'est les tauliers, en fait, qui donnent le pass ou pas, tu vois. C'est les tauliers qui reçoivent ton truc et qui disent... Ah ouais, ça c'est drôle, allez, c'est kiffant, let's go, tu vois. Et puis après, sur un truc où ça peut peut-être les déranger un peu plus, on va dire non, ça par contre c'est ridicule, tu vois. Et en fait, toi, en tant qu'artiste, t'arrives avec ta proposition artistique qui peut se tenir, et puis en fait, tu vas être connoté artiste drôle, tu vois, un peu ridicule.
Ce qui a été le cas de beaucoup d'artistes de cette génération-là, c'est-à-dire que les pionniers de la techno comprenaient pas comment, c'est pas comme ça qu'on fait de la musique club, quoi. Et d'ailleurs, il y a une chronique du magazine anglais Wired qui chronique l'un des tout premiers électro de Parawan, justement. Et la chronique dit, intéressant, mais attention, c'est pas comme ça qu'on fait de la musique club, quoi. et je pense qu'il y a ce truc où dès que t'essayes d'amener un peu un pas de côté, et surtout de l'humour, en tout cas de la légèreté, peu importe le genre musical, c'est souvent mal vu. Ouais. Et faut un peu se battre pour défendre son parti pris, quoi.
Mais du coup, dans certaines scènes, on a créé justement. Des scènes dites alternatives, tu vois, quand ça rentre pas dans le canon du truc, et du coup, c'est alternatif parce que tu fais des blagues et que tu parles pas des sujets habituels.
Oui, t'es pas bien sérieux comme artiste, de toute façon.
C'est ça, ouais. Donc, ce constat-là, pour moi, il est assez triste. C'est que sur un truc qui se veut justement anticonformiste, d'exploration, d'expérience, d'essais, de trucs, machin, en fait, tu retombes quand même dans des tropes à respecter.
Tu finis toujours par retomber dans des dogmes, j'ai l'impression. C'est vraiment quelque chose de très différent. J'ai pas en tête un mouvement qui a échappé à ça. Dès qu'il y a eu du succès, en fait, c'est inévitable, tu retombes dans des schémas, quoi.
Ouais, et du coup, quand on rigole de Black Eyed Peas, est-ce que c'est finalement pas nous les méchants dans l'histoire?
Moi, je trouve ça pas ça dingue, Black Eyed Peas.
Mais est-ce que ça, c'est pas du gatekeeping quand tu dis ça?
Je sais pas, je pense que j'ai pas trouvé ça très bien. Après, de là à glorifier Britney Spears, je sais pas non plus. Il y a des bons morceaux, mais bon, bref, je sais pas.
Ouais.
Par contre, tu me parles d'Aphex Twin, oui, j'avoue, j'aime bien. Bon.
C'est pas le même.
C'est peut-être un cliché.
Non, mais c'est pas la même exposition non plus, tu vois.
Non, ça n'a rien à voir. On comprend aussi que la culture club est hyper importante, on en a déjà parlé, mais je veux citer quand même. Rapidement, quelques trucs, parce que tu t'arrêtes dans le bouquin sur des lieux, des choses comme ça. Moi, je pense à... Est-ce que ça, encore une fois, ça montre ce truc de transition. Parce qu'en fait, c'est un moment où il y a des vieux clubs historiques et mythiques qui sont un peu délaissés. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, les bains-douches, le palace, ces trucs comme ça, qui sont un peu dans l'imaginaire 80-90, hyper important. Tous les mecs là qui veulent cluber, dont on parle depuis tout à l'heure et tout, ils vont délaisser ces lieux-là. Et il va y avoir de nouveaux qui vont naître. Il y a le Paris-Paris, qui ouvre en 2005. où là, bah, justement, les Too Many DJs, DJ Mehdi, Tiga, LCD Sound System, ils viennent mixer. Chili Gonzalez aussi.
Ouais, il est passé aussi.
J'ai rendez-vous dans 15 jours. dans 15 jours. C'est là-bas qu'il y a le premier concert de MGMT en France.
Ouais.
Pour dire qu'il y a des liens aussi comme ça avec... tu vois, c'est l'époque aussi. MGMT, c'est pas complètement éloigné de tout ça, y compris dans le son d'ailleurs.
Oui, parce que d'ailleurs, en plus, Justice remix MGMT. D'autres artistes ont remixé aussi ce groupe-là. Donc il y a plein de transitions, enfin plein de filiations possibles entre tous ces artistes.
Et puis un autre lieu important, le Social Club, évidemment. On l'a déjà cité. Alors pour plein de trucs, il y a Justice qui avait son studio en plus juste en dessous du Social
Club. Oui, c'est là où ils ont enregistré le premier album. Ouais.
Ah, qu'ils ont fait Cross. T'as DJ Mehdi qui avait une résidence mensuelle. Ça s'ouvre au rap. Le Social Club a vraiment, à une époque où le rap n'était pas dans les clubs en France. C'était vraiment assez rare. En tout cas, pas dans les clubs où il y avait de la musique électronique, etc. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui dans tous les clubs, t'as du rap.
Enfin, du rap. Est-ce que vraiment
ouais. Si. Aujourd'hui en club tu peux avoir du rough, du boba, des trucs comme ça.
Ouais, mais ça sera sur un côté comme Michel Sardou, les lacs du Connemara. Tu passes rough, t'es pas premier degré quand tu passes rough.
Ah, franchement.
Et je dis ça en aimant beaucoup rough.
Pour le coup, le son qui tue, je pense que c'est un morceau qui passe très bien dans plein de.
Mais oui, mais le problème c'est que
bien sûr, ils vont pas mettre beaucoup d'autres morceaux dehors.
D'un point de vue rapologique, le son qui tue pour nous, c'est de la merde en bar en fait.
C'est un single dessiné.
Pour ça, il faudrait qu'on reçoive rough pour discuter de ça. Parce que moi j'ai des questions.
C'est un peu comme Booba, il y a eu des déclarations.
Ouais, alors Booba c'est encore autre chose, mais tu vois, c'est à dire que les morceaux qui passent pour clubber, c'est pas les morceaux qui sont validés par la street, si on reprend les termes.
Ah oui, c'est pas 94, c'est pas 187, et encore 94.
94,
peut-être.
Franchement, ouais. Il pourrait passer.
Il pourrait.
Après, tu vas au Social Club, à cette époque-là, ils font venir ASAP Rocky, ils font venir DJ Première. Just Blaze.
Ouais.
Tu vois, donc t'as aussi quand même.
Non, c'est cool. Parce que, en fait, ils font venir les mecs, mais nous, on rentre pas. Tu vois, c'est toujours pareil.
Non, mais ça, on l'a évoqué.
Ouais, mais donc, c'est littéralement ma musique qui passe à l'intérieur, mais j'ai pas le droit de traire
en vrai,
frère.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que. Non, en vrai, c'est.
Moi, j'ai aucun amour pour tous ces endroits. On ferait des parkings à la place.
C'est important parce que ça préfigure, et c'est par ces étapes-là qu'on est arrivé aussi au rap triomphant d'aujourd'hui.
Ouais.
Et au rap mainstream, etc. Écouté par tout le monde, par toutes les classes sociales, etc. Parce qu'aussi, oui, des blancs bourgeois se sont pris cette culture. Mine de rien, mieux vaut quand même qu'ils fassent référence aux Américains, aux historiques, qu'ils fassent venir DJ Première, etc. Plutôt. Et je trouve qu'en fait, ça a quand même participé à un élan qu'on peut critiquer parce qu'il y a une forme de gentrification, etc. Mais n'empêche que quand dans le rap, on est content d'avoir enfin une économie, bah ça a aussi passé par là, peut-être, tu vois, je sais pas.
Mais moi, je préférais quand tout le monde crevait la dalle. Au moins, la musique était authentique.
Le social aussi mérite de ramener, notamment via les résidences, en tout cas les cartes blanches qu'ils accordaient à beaucoup d'artistes, ramener aussi toute une scène anglaise. Donc voilà, à une époque où on est avant la hype autour de la grime. Donc il y a quand même quelque chose d'assez précurseur dans la démarche du Social Club, avec bien sûr tout ce qu'on a dit autour de la classe sociale, c'est clair et net.
C'est le clubbing, c'est comme ça.
Et puis je précise d'ailleurs, parce que l'idée, c'est pas les bourgeois qui ont permis au rap d'émerger, etc. Parce que je crois que les gens du rap sont allés chercher aussi eux-mêmes, etc. D'ailleurs, d'un point de vue économique, ils ont créé leur modèle aussi, le rap. Tu vois, autour du contrat de distrib, etc., qui a ensuite été plutôt copié par les autres, d'ailleurs, etc. Donc, c'est pas dire ça. Mais je pense que c'est un ensemble de choses et que, je pense, un groupe comme TTC, par exemple, a été important aussi pour l'ouverture à la culture rap, je pense, pour plein de gens.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'un groupe comme TTC, pour les gens de la culture rap, et qui revendiquent de cette culture rap, bah c'était déjà plus du rap, tu vois. Ouais. En fait, c'est ça.
Ouais,
le
mais
truc.
Ça, on en est revenu en vrai de ça, je pense.
On en est absolument revenu. Il y a pas de problème. Ouais. Mais tu vois, de la même manière que DJ Mehdi était même pas compris par les mecs avec qui il a fait littéralement toute sa carrière au début.
Voilà, tu vois.
Tu vois, ben en fait, mais oui, mais c'était ça le truc. C'était que
j'ai l'impression aussi qu'il y a toujours une nostalgie pour la forme qu'un genre musical a pu être. Je pense, par exemple, par rapport à ce que tu dis, c'est finalement en 95, Kool Shen est déjà nostalgique du rap. Non, tout n'est pas si facile, tu vois, il est déjà nostalgique. Et je trouve, il y a ce truc où on regarde un peu, il y a toujours ce réflexe de voir ce que ça a été. Et donc, forcément, quand des mecs comme.
C'est des poujadistes, en fait.
Bah ouais, ça, c'est une énormité, quoi. En fait, ceux qui sont là depuis 86 comprennent pas. En tout cas, ils peuvent ne pas comprendre.
C'est marrant parce qu'il y a
une rupture.
Il y a des trucs que tu comprends, d'autres que tu comprends pas. Je sais pas ce qui fait que un virage va être compris ou pas, tu vois, dans un genre musical. Mais oui, le gatekeeping dans le rap, c'est évidemment
bah dans tous les genres, mais
valeur cardinale, tu vois. Donc, mais c'est vrai que quand tu parles de TTC, bah effectivement, TTC à l'époque quand ils sortent leur truc, pour les gens qui gravitent dans cette culture hip-hop, on est déjà plus dedans, tu vois. On est déjà plus dedans. On est en mode ouais, ok, pas ouf, tu vois. Enfin vraiment, et c'est très dommage. Parce qu'on s'enferme, tu vois, on s'empêche nous-mêmes d'aller kiffer.
Ouais, et en même temps, je suis d'accord, mais à moitié, dans le sens où, tu vois, on a reçu DJ Fab dans cette émission. DJ Fab, il était avec eux, pourtant c'était un OG, tu vois, qui était là avec JM, etc. Donc tu avais aussi des mecs qui aimaient la musique, qui aimaient le rap, et qui avaient conscience aussi qu'il y a un truc qui se jouait là, et qui avait des références communes, en fait, tout, tu vois.
Ouais.
Mais oui, t'as raison, le grand public, si je puis dire rap, même s'il n'y avait pas encore vraiment de grand public rap à ce moment-là, il était un peu moins touché. Ouais, pas de la même manière qu'aujourd'hui, en tout cas.
Mais moi, tu vois, quand tu me parles de Tequila Tex, pour moi, je le retiens plus pour les feats avec ATK, le Barillet, etc., que pour TTC, tu vois.
Ouais.
Parce que c'était ce qu'on écoutait, et que c'était comme ça, et que du coup, quand effectivement, il a pris ce virage-là, justement, Fluo Kids, machin, clubbing et tout, en vrai, il y a plein de gens de ma génération qui étaient en mode, oh, vas-y, next.
Bah, après, je pense qu'il y a aussi l'album solo de Tequila Tex qui, là, a été un virage. Je pense que ça n'a pas été une si grande réussite, qui n'est pas un mauvais album, mais là, on est vraiment sur une esthétique.
Il est très, très pop, c'est
très,
ça.
Très, très pop, ouais, très chanson. Il y a Philippe Catherine, il y a Lio. Mais par contre, l'esthétique de l'album, la couverture, on est vraiment sur cette esthétique Fluo Kids. Et un peu comme l'album finalement Graduation de Kanye West, on est sur ces codes-là, quoi. C'est vraiment
et d'ailleurs, il faut le dire qu'il y a aussi des codes hip-hop qu'on retrouve au niveau visuel. On n'a pas trop parlé du fait que. Alors, attends, il faut que je retrouve le nombre de personnes qui voulaient être graphistes à la base,
ah
qui
oui,
sont dans cette musique. C'est un Gaspard Auger, Danger, Data,
Sirkin. Ils sont.
Les labels avaient souvent un peu leur DA, enfin leur graphiste attitré. Somi pour être banger, évidemment, c'est le plus réputé. En fait, et tous ces mecs étaient aussi à fond dans la culture skate, dans la culture graffiti. Ils portaient des casquettes, des baggy. Enfin, il y a aussi ce lien, c'est con, mais tu sais, un truc quand même de généalogie, de commun comme ça, avec la culture hip-hop, en fait, clairement.
Bah ouais, clairement. Bah, de toute façon, le style de graphique de Somi est quand même déjà assez, je pense, redevable, ou en tout cas similaire à celui de Para. Et en fait, on est vraiment dans un héritage du graffiti. Ça fait du trait dessiné à la main, des codes couleurs, enfin en tout cas même des symboles, les symboles qui dessinent, les chaussures, les Air Force One,
tout ça. C'est hyper important.
C'est hyper hip-hop, en fait, dans ce style-là, quoi. Et ça, je pense que c'est aussi pour ça que ça a bien collé à Headbanger. C'est vrai qu'on dit souvent qu'Headbanger, c'est un label plus avec une esthétique un peu rock.
Les blues, en partie aussi.
En partie, mais finalement, il y a plein d'artistes du label qui ne le sont pas. Fitz, par exemple, n'est pas du genre à mettre un manteau en cuir. C'est un mec qui vient du hip-hop et qui le formule un peu autrement dans ces années-là. Mais c'est ces codes-là, quoi.
En vrai, le bon parallèle, parce qu'il la revendique aussi, cette culture, et pareil, qui a su faire le pont de manière admirable, j'adore cette culture, c'est la culture skate. Ouais. Ça, ils ont tous ça en commun. C'est le truc qui arrive à rassembler tout le monde, à peu près, tu vois. Le rock, le hip-hop, les noirs, les blancs, etc. Ce truc, le skate, il y a un moment où là...
Ouais, ça a bien fonctionné dans cette culture.
Après, je rigole.
Non, c'est vrai. Par exemple, dans certains quartiers populaires, tu te ramenais en skate, t'étais vu comme un ovni, tu vois, effectivement. Mais les skaters dans les quartiers, c'était pas le truc le plus présent.
Dans les années 90, je pense.
En France, ouais.
Oui, en France, je parle de la France.
Bah, c'était. En fait, tout ce qui nécessitait d'avoir un ustensile pas gratuit.
Non, mais tu le vois de toute façon dans les cours, c'est très bête, mais dans les cours du lycée ou du collège, quoi, dans les années 90, début 2000, il y a les fans de skate, il y a les fans de rap, il y a vraiment une un peu.
Alors après, il y a des ponts.
Il y a des ponts.
Il y a vraiment des ponts.
Mais notamment aux États-Unis, ils ont fait beaucoup plus la jonction beaucoup plus tôt.
Mais je pense qu'en France, t'as pas encore ces codes-là, à cet âge-là, à cette époque-là. C'est peut-être plus ça, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Il y a cet aspect-là du côté web, il faut qu'on s'arrête un peu là-dessus. Parce que oui, on parle de musique depuis tout à l'heure, d'esthétique, machin, etc. Mais en fait, cette esthétique même, le fait que ça soit aussi foutraque, on l'a dit, c'est foutraque. D'ailleurs, un extrait avant qu'on parle de web, encore une fois. Parce que ça explique justement ce côté foutraque. Un extrait de ton bouquin, Max. Dominé par des effets synthétiques plus intenses qu'un solo de Metallica ou Rage Against the Machine, mais aussi plus pauvre harmoniquement, la block house est donc moins un genre à proprement parler qu'un format. C'est un réseau de réseaux où se regroupent des artistes internationaux venus définir un corpus de sonorités extrêmement large. C'est une musique d'ordinateur profondément digitale. C'est un mouvement excessif constitué d'amuseurs qui ne peuvent se contenter de développer un même thème pendant 5 minutes
et qui provoque des haut-le-cœur à la vieille garde. C'est, pour reprendre le titre du premier album de Hadouken, une musique pour culture accélérée. C'est un agglomérat de jeunes branchés à l'origine d'un renouveau radical dans la manière de vivre, de penser et de produire la musique. D'ailleurs, il y a un bon exemple après.
Bravo, belle phrase. Belle phrase.
Entre la synthwave de Danger, les peplums opératiques de Justice, avant tout pensé pour le format album, le groove exotique et syncopé de Switch, la new rave de Klaxon, l'électrofunk de DJ Mehdi, les mix teintés de hip-hop Daytrack ou l'amour des années 1980 de Minitel Rose, qui a d'ailleurs repris le générique du soap-opéra Côte Ouest, la Blog House ne peut être présentée comme une entité achevée, figée, prête à être achetée et consommée. C'est pour juste résumer un peu ce côté, ça part dans tous les sens.
C'est ce qu'on disait au début, c'est qu'il n'y a pas un style.
Non.
Donc c'est plus une méthode.
C'est en fait, je pense que c'est une façon de faire. Ouais. Mmh. En fait, de se dire là, on a quelques années, il y a aucun dogme. La musique se dématérialise, on y va à fond. On a Reason, on a Logic, on a les. Pour parler aussi, justement, purement du web, il y a les blogs qui nous permettent d'exister. Il y a MySpace qui nous permet d'exister.
On ne se rend pas compte de la révolution que c'est.
MySpace, c'était incroyable.
Le MP3, alors déjà, tu as des fichiers qui sont assez légers pour être facilement échangés. Mmh. Ensuite, effectivement, tu peux les mettre en avant et créer des espaces de playlist. C'est le début aussi de la playlist, tu vois, web. Mmh. Y a l'iPod qui va arriver, tu peux l'avoir en nomade, etc.
L'iPod est déjà arrivé, mais en fait, MySpace, c'est vraiment le fait de. C'est le web 2.0, donc c'est le début du web 2.0, c'est-à-dire que le producteur est en frontal avec le consommateur, il n'y a plus besoin d'intermédiaire, en fait. C'est ça le truc.
Bah, c'est ça.
En tant qu'auditeur, mais à fond.
On n'a jamais vécu ça dans l'histoire de la musique. Avant, il fallait presser tes disques ou tes cassettes.
Bah avant, tu avais besoin justement de toute l'industrie musicale. Ouais. Alors que là, en fait, tu pouvais être en frontal avec tes consommateurs et avoir justement en plus des métriques directes de est-ce que mon morceau il marche ou pas, tu vois. Parce que du coup, tu as des KPI à suivre, tu vois. Tu as des indicateurs et tout. Et là, tu dis, ah ouais, ce truc-là, il a moins marché. Hop, je le dégage. Et je repousse autre chose. Et c'est ouf.
Pour dire le phénomène que c'est, tu parles de Napster. Napster, c'est l'un des premiers, en tout cas les plus populaires sites qui permettaient, logiciels qui permettaient de télécharger illégalement des MP3. Mmh. Ça se lance en 99. En un peu plus d'un an, 14 mois, un truc comme ça, il passe de 4000 utilisateurs à 22 millions. Tu te rends compte, en un an, tu passes de 4000 à 22 millions.
Mmh. Mais ça va aussi de pair avec la démocratisation d'Internet massive au début des années 2000.
Parce qu'on arrive, en fait, le point quand même cardinal de ce truc-là, c'est la généralisation des lignes à haut débit.
Exactement.
Mmh. C'est à partir du moment où l'ADSL arrive, parce que sinon, avant, moi je me rappelle très bien que... En 96-97, oui, t'as Internet avec les CD AOL.
Il y a pas beaucoup de gens qui l'avaient à cette époque-là.
Bah non, mais tu sais, t'avais genre 15 heures gratuites là. Mmh. Et en plus, quand tu t'en servais, tu coupais le téléphone pour le reste de la baraque. Et quand tu téléchargeais un morceau, il fallait attendre 45 minutes pour un morceau de 4 mégas. Quoi, tu vois.
Parce qu'on rappelle, à l'époque, l'Internet n'est pas illimité. Hein. On paye un forfait pour avoir accès à 10 heures dans le mois.
Bah, c'est pas illimité.
C'est vraiment un autre monde.
Et surtout, ça utilise le réseau cuivre. Donc, ça utilise le réseau téléphonique. Donc, quand tu es sur Internet, on peut pas passer de coup de fil. Et ça, c'est un problème quand tu vis pas chez toi, tu vois, déjà. Et quand tu dis en plus que il faut absolument que le truc reste activé parce que je suis en train de télécharger 3 morceaux et ça va durer encore 45 minutes, faut négocier avec les parents. Hein.
Et ce qui est fou, donc c'est Napster, mais il y a aussi les grands, on les connaît, Kaza, Emule, ouais. Tout se lance en 1, 2, 3 ans autour de ça, quoi, autour de 2000, quoi, en gros.
C'est ça, tout prend forme.
Soulseek un peu plus tard, quand même.
C'est pas,
non, 2003, je pense, non
En tout cas, c'est entre 99 et 2002 que tout sort quasiment, en gros. Peut-être 2003, mais c'est vraiment.
Soulseek qui fonctionne toujours. Hein,
Absolument.
J'aime beaucoup Soulseek.
Oui, j'en connais un autre qui l'utilise. t'as iTunes Store. Arrive en 2003, 2000. Là, effectivement.
Avec des prix plus faibles, en plus, que la Fnac, par exemple, qui lançait aussi. C'est les prix de... C'était 99 centimes.
En gros, c'est la réponse légale à... On peut télécharger, acheter des MP3 au single, effectivement, sur cette plateforme.
C'est ça.
C'est ça qui, de mon point de vue, a durablement bousillé l'univers. Vraiment.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, il y a plus d'albums, enfin il y a des albums, mais je veux dire, les gens, en fait, c'est le début de la culture de la playlist qu'on vit complètement aujourd'hui avec un Deezer, avec un Spotify. C'est vraiment ce truc-là, c'est avec un Apple Music évidemment qui est l'héritier d'iTunes, hein. Mais c'est ça, c'est exploser le projet artistique pour n'en garder que 2-3 morceaux et puis nexter le reste en fait. Et,
Moi je suis d'accord avec ça, j'ai juste une petite nuance, c'est que à l'époque en tout cas il y a encore cet attachement au visuel qu'on a perdu en fait avec Spotify je trouve et Deezer, en fait on fait plus trop attention aux pochettes. À l'époque, il y avait quand même ce truc de... Certes, par exemple, sur Fluo Kids, qui était le plus gros blog français à cette époque-là. On télécharge les morceaux qu'ils ont pu mettre en ligne. Finalement, tu vois, dans le nom du fichier, il y a l'historique, enfin voilà, le lien d'où ça provient. En fait, il y avait quand même ce truc d'aller renommer le fichier, de le rentrer dans ton iPod et de mettre la bonne pochette. Il y avait quand même ce truc de finalement, tu peaufines quand même, tu rends beau cet objet, tu lui donnes une dimension presque comme si c'était un album mais que tu l'avais à portée de main, dans un petit objet en permanence, quoi.
Ouais, il y avait un attachement à...
Okay. Ouais, je trouve, et moi je faisais ça, je pense pas être le seul, quoi, mais il y avait, je trouve, encore quand même cette attache au visuel et le fait de bien organiser les choses là où aujourd'hui... J'ai l'impression qu'on balance un peu dans n'importe quel
playlist. Il faut se rappeler quand même que... est-ce que je me fourvoie en disant ça? Mais non, mais le premier iPod, l'écran, il n'était même pas en couleur. C'était un écran matrice, c'était même pas un écran LCD.
Est-ce qu'il était en couleur, ça? Non, c'est
2001, le premier iPod.
C'était le premier iPod, c'était un truc avec un écran 5 lignes avec la molette, mais tu pouvais pas afficher des JPEG. T'avais pas d'image en fait sur
le Game Boy. Quoi.
Ouais, c'était un écran de Game Boy. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment ce moment-là où on a compris, parce que justement, l'industrie du disque à ce moment-là, je pense qu'elle sait même plus où elle habite.
Elle se cherche clairement à cette époque-là. Elle tente 10 000 choses. Il y avait quelque chose qui avait été évoqué, quoi, mais c'est même d'aller pour lutter contre le téléchargement, c'était d'inclure un prix forfaitaire, quoi, dans les abonnements, en fait.
C'est la licence globale.
Ouais, et en fait, ils ont fait dire, on a tenté plein de choses.
Ouais, ils ont tenté des trucs. Ouais.
Et en fait, ce qui était dommage, c'est que au centre du débat, il y avait toujours cette accusation envers les personnes qui téléchargent. Ça, c'était vraiment toujours ces gens-là qui sont pris pour cible. Alors qu'il y avait des stats, enfin, aujourd'hui on le voit, il y a des stats, notamment de la SNEP, qui prouvent que, je crois que c'est 60% des personnes qui disent télécharger continuaient d'aller acheter des albums.
Bien sûr.
C'est pas des voleurs les gens, en fait, c'est juste qu'il y a un accès à la culture plus large, on peut pas tout acheter. Et
la charge a été mise effectivement sur les consommateurs avec, on se rappelle quand t'avais les DVD, le célèbre spot, est-ce que vous voleriez une voiture? Bah, à titre personnel, si le fait de voler cette voiture fait que le mec qui l'avait, il l'a toujours et que moi j'en ai une aussi, bah oui, je la volerais tous les jours ta voiture, tu vois. Donc en fait, c'est ce truc-là, c'est qu'ils ont essayé vraiment de faire des parallèles archi douteux, alors qu'effectivement, il y a plein de gens qui disent juste, j'ai envie d'écouter ce morceau 3 fois, je vais pas acheter l'album, je vais pas acheter le disque pour écouter le morceau, en fait, tu vois. Alors après, est-ce qu'il aurait fallu faire un contrat moral, genre, ok, tu jures que tu l'écoutes pas plus de 3 fois, genre, à partir de la 4e, le morceau se télécharge, se désinstalle.
Tu peux faire ça, genre, avec des NFT, des tokens, des trucs comme ça, non, tu veux pas faire un peu genre de truc, genre, utilisation?
Non. Mais ça aurait été intéressant. Je pense que ça aurait été un truc, tu vois, que l'industrie musicale aurait pu mettre en place, des fichiers autodestructibles. genre, tu l'écoutes 3 fois et après, bah, t'es obligé de l'acheter.
C'est horrible.
Ou de le retélécharger, tu vois. Ouais, c'est dégueulasse, mais ça, ils l'ont pas fait. Pourtant, c'était pas les derniers. Hein.
Mais ce qui est intéressant à noter, je trouve, c'est que oui, je pense que l'industrie, elle comprend pas les codes de MySpace, des blogs.
Ça, c'est clair.
Et d'ailleurs,
ils essayent de monétiser. D'ailleurs, tu le dis dans le bouquin. Ouais, ils essayent de rattraper un peu le truc.
Et puis ce truc, c'est Aeroplane qui a à la base, c'est un duo, mais c'est plutôt un gars qui a évolué en solo après sous le même nom, quoi, un artiste belge. Et en fait, il m'expliquait que lui, il avait été contacté par je sais plus c'était quel label, mais en tout cas le label de Justin Timberlake pour faire un remix. Et en fait, le truc, c'était de le faire fuiter sur un des blogs à la main, enfin comme si c'était c'était le blog qui le mettait en avant. Donc en fait, ils ont tenté après de tout à l'heure, comme de récupérer tout ce mécanisme, toute cette façon de faire, mais de l'instrumentaliser de façon hyper roublarde, en fait.
C'est vraiment des escrocs, hein. Ça, au cœur de la démarche quand même.
Ouais.
Il y a cette notion d'escroquer.
Ce qui est fou, c'est que on a évoqué MySpace. C'est vraiment pas anodin, MySpace, parce que en fait, c'est c'est presque le premier réseau social moderne. Ouais. Alors, il y a un truc qui s'appelle Friendster aussi, mais qui a moins pris, je crois, en France.
Ah oui, non, c'est MySpace. C'est
vraiment MySpace. C'est vraiment l'ancêtre de Facebook, d'Instagram, de machin, etc.
Alors, pas d'Insta, parce que tu pouvais pas poster beaucoup de photos non plus.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le premier véritable réseau social.
Oui, c'est le Web 2.0, c'est un des héros du Web 2.0.
T'avais des messageries avant, il y avait Messenger, etc. T'avais évidemment des forums, des blogs, on l'a évoqué, mais vraiment, le côté réseau social, MySpace, c'est le premier qui...
En fait, c'est l'aspect profil.
Oui,
c'est ça. C'est la page profil, c'est ta page, c'est ta page à toi.
Qui était travaillée d'ailleurs. Ouais, ce qui était d'artiste, c'était très soigné.
Tu pouvais mettre ton esthétique, des bandeaux, des machins comme ça. Tu pouvais mettre des morceaux de musique. Mmh. Alors évidemment, on comprend l'intérêt quand t'es artiste pour diffuser ta musique. Tu le disais, ça permettait même de faire des tournées derrière. Tu vois, si t'as beaucoup d'écoute sur ton MySpace, et bah, ça t'ouvre quelques portes. Y a un autre aspect qui est génial, c'est que les artistes, pour la première fois, se contactent facilement entre eux.
Ouais, c'est ça.
Et ça a créé un nombre de featuring MySpace hallucinant, dont la génération Blogout a beaucoup bénéficié. Ils sont beaucoup...
Clairement, oui, je citais tout à l'heure Kid Cudi et Crooker, je pense c'est un exemple ultime, mais ça arrivait à plein d'autres. Justement, je crois qu'un groupe lillois où il y a Enfants Terribles a tourné en première partie de Pitches via MySpace aussi. Enfin, il y a plein d'échanges comme ça. Mmh. Et en fait, le fait, ça, beaucoup me l'ont dit, quoi, c'est que dès que tu figures dans un top friends de, je sais pas, de Justice ou des tracks, à l'époque, c'était. En fait, tu as une validation. Enfin, automatique et qui est vraiment en direct. Quoi.
C'est top friends, c'est donc on peut accéder à tes amis et tu peux mettre en avant certaines personnes que tu follow, entre guillemets.
C'est ça, ouais, c'est comme... l'équivalent du blog roll. C'était exactement la même chose dans l'univers des blogs où t'allais sur le blog de quelqu'un et dans le bandeau latéral, il disait lisez aussi cela parce que je les aime bien, et en fait, t'avais du trafic naturel en fait.
Ouais, c'est de la recommandation hyper. Ouais, et sans intérêt en plus économique derrière, quoi. Ouais. Donc c'était,
alors au début.
Au début, ouais.
Après, comme d'habitude.
Puis, ouais, je sais pas, il y avait aussi ce truc de. Les DJ là dont je parle en bouquin, ils mettaient aussi les setlists de leur. De leur DJ set, en fait. Il y avait quand même ce truc de partage qui était très fluide, très naturel, qu'on a perdu, en fait, finalement, au fur et à mesure des années.
Ce qui est intéressant, c'est que MySpace était considéré comme incontournable à un moment donné, et il a disparu totalement quand Facebook est sorti, parce que Facebook, c'était MySpace. Avec en plus d'autres trucs. Ouais. Et notamment, effectivement, pouvoir poster des photos.
Mais moins orienté musique, c'était aussi. C'est une chance qu'on a eue dans la musique, que MySpace est autant axé sur la musique, alors que c'est le premier réseau. Mais
c'était la raison d'être de MySpace, hein, c'était uniquement partager du son.
C'est peut-être ce qui lui a coûté sa place aussi, effectivement. Mmh.
Ouais, parce qu'on pouvait y passer des heures, en fait, sur MySpace. Il suffit de cliquer justement sur les top friends, de voir, ou alors de taper, je me rappelle, le nom d'une ville, et tu dis, tel genre musical dans cette ville, et puis tu t'arrivais. Il y a les algorithmes, des choses très cool, quoi.
Tu dis un truc hyper intéressant. Bon, tu développes vachement aussi autour des forums, des blogs, les forums, comment à la fois les fans, mais même les artistes parfois, il y a même des guerres, il y a des forums ennemis, alors lui, il va dessus, c'est des trucs complètement fous, mais faut lire le bouquin pour découvrir tous ces détails, c'est passionnant. Tu dis quand même, un dernier truc qu'on peut dire autour du web, c'est que la folie un peu de cette génération, et notamment sa diversité, son appétence pour plein de trucs hyper différents, et leur capacité à faire même des morceaux qui n'ont rien à voir presque parfois entre les uns entre les autres, ça naît aussi, tu me dis si j'ai bien interprété, mais j'ai cru comprendre que ça naissait aussi d'une forme de désillusion vis-à-vis de l'industrie. De toute façon, qu'est-ce que je vais faire un album? L'industrie du disque est morte, je vais faire que des singles, et puis après tout, est-ce que j'ai plus un DA derrière moi de label? Je vais faire mes trucs, puis on verra bien. Enfin, il y a un truc un peu comme ça.
En fait, ça prolonge ce qu'on disait sur le principe de. Enfin, sur l'idée de faire une tournée à partir d'un ou deux morceaux, en fait. C'est que les gars ont très vite compris que. Je sors un morceau ou deux sur MySpace, je fais un remix de tel artiste, ça fonctionne. Je pars en tournée via des tourneurs, quand même pas via des labels. J'ai pas forcément le temps de bosser un album. L'album va pas m'apporter grand chose de plus. Pourquoi y aller? Il y a ce côté un peu. Bon, on sait ce qui est le paysage de cette époque, donc très qui commence à se dématérialiser. On sait que l'industrie du disque elle est en crise. Au-delà même de l'industrie du disque, le monde, c'est la crise de 2008. Donc beaucoup prennent ce virage là. Je dirais pas faute de mieux, mais en tout cas en étant conscient du monde dans lequel ils évoluent. Et...
Oui, il y avait un petit côté un peu doomer, quoi, genre nos futurs, de toute façon.
Qui colle plus avec le côté punk et tout.
Ouais, ça finit.
Et qui a encore un truc, quelque chose qui est aussi propre aussi, je pense, à des artistes qui ont une vingtaine d'années à peine, quoi. On se dit, on se soucie pas encore de ce qui se passera dans 10 ans, quoi.
Ça, c'est le truc intéressant aussi, c'est que c'est quand même un autre monde. On voit qu'il y a eu un shift. parce que entre la nuit, les excès, le rapport aux meufs, le rapport à l'alcool, machin, etc. c'est tellement aux antipodes de la jeunesse d'aujourd'hui, qui est revenue dans une forme de sobriété, d'inquiétude aussi, je pense, vis-à-vis du monde.
Avec là, des collectifs de... Enfin, voilà, de collectifs qui participent à, enfin, à créer des événements nocturnes qui sont plus engagés quand même.
Oui, absolument. Ah oui, avec une conscience du monde.
Clairement.
Mais, et c'est à la fois une forme d'inquiétude, mais aussi un truc qui est important peut-être pour construire le monde de demain, effectivement, d'avoir conscience et de vouloir le changer peut-être, etc. Mais il y a quand même. Ouais, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, putain, quel contraste.
Ouais, bah oui, non, mais c'est ça, clairement, là, à cette époque-là, il n'y a pas vraiment de conscience, quoi. On tourne. Et puis en plus, quelque chose qu'on n'a pas dit, mais en plus, ça rejoint un peu cette prise de conscience écologique, c'est que ces artistes-là, ils tournent très facilement aussi dans le monde, parce que c'est l'apparition des compagnies low cost aussi. Ce qui te permet de voir. Enfin, les clubs, d'un seul coup, un club, je veux dire, alors peut-être pas pour aller en Australie, parce que l'Australie.
Ibiza,
je pense, voilà, mais pour aller à Ibiza, le DJ, bah, il est tout seul derrière sa platine, il coûte pas si cher. L'avion coûte que dalle. Allons-y, programmons-le, quoi. Et ça, ça a vachement participé aussi. Mais eux, du coup, ils voyageaient. Alors, il y a encore des DJ qui font ça aujourd'hui, bien sûr, mais. En tout cas, là, ça voyageait énormément. Il n'y avait pas de conscience écologique. Mais comme c'était aussi cette époque-là, quoi, on ne se posait pas cette question.
Et pas de conscience aussi pour leur santé, parce qu'on va aborder la fin un peu de cette scène, y compris à cette question-là qui se pose. Peut-être un morceau quand même avant de passer à cette dernière partie. Je sais pas, toi, t'as une envie particulière ?
Bah, une envie particulière, mais vu qu'on a parlé tout à l'heure de filles, on peut peut-être écouter Pop de Globe.
C'est exactement ce que j'ai proposé.
Parfait.
Eh ben c'est parfait. On enchaîne alors. MC my people call me off when I rock the party, you bust a nut. Feeds is breaking out the beat. Shit be hotter than me. Me and he are cruising militia. Better watch out, my clan gets vicious. Badass bitch, I'm rated X, I'm gifted. Ain't gotta sell sex. Cross the beach onto the street. Gotta work hard, no room to cheat. Crunk and grind, that's my bloodline. Feeds is mixing, off he's shouting, off is banging, feeds is banging. Time to get low, do the tootsie roll. That's how we do it whole. And if you understood, would you stop hating and playing hard? I got a loaded bodyguard. Don't make him pull the Glock and pop. Uffy's gonna make the shit rock. Like do, I like. Boys call me when they feel freaky hot. I run the show, you got too slow. Pick up the pace with your cracked out face. Uffy's banging, feeds is banging. Time to get low, do the tootsie roll. That's how we do, do it hot. And if you understood, would you be my rhyme if you can? Yeah, you talk shit, think I care. My style in this flow is confusing, cause you don't know. Pop the Glock, the 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 Glock, the Glock. Sound like Twister, fast as hell. I rock this beat in no doubt. C'est marrant, ça me fait penser aussi, c'est un peu la même époque. Je crois que c'est pas vrai. Papers, Plane de Mia.
Ça arrive après, ouais.
Ah, ça arrive après. Tu penses que c'est inspiré même potentiellement pas ou pas?
Peut-être. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Diplo et Switch, qui sont quand même des gros acteurs aussi de cette scène Blog House, sont derrière le son de Mia à ce moment-là. Donc il y a, mais ouais, en ce moment, c'est vrai que ce morceau-là, il est hyper précurseur sur plein d'aspects. L'utilisation de l'autotune, finalement, dans un schéma.
C'est l'autotune,
pop,
là, tu penses, ou c'est un vocodeur derrière?
C'est de l'autotune, c'est de l'autotune de ce que me disait Fitz.
Ok.
Par contre, le bruit du baril, alors que le morceau s'appelle Pop the Clock, c'est l'automatique, moi, je comprends pas. Pour moi, c'est une faute de.
Oula, le spécialiste des armes qui arrive.
Franchement, un peu déçu. C'est une erreur un peu grossière.
On n'est pas dans un milieu toc, tu vois.
Par contre, c'est marrant parce qu'effectivement, la façon qu'elle a de poser sa voix un peu sassy, c'est littéralement le blueprint de pas mal de rappeuses.
Ah, mais clairement,
De poser comme ça, tu sais, avec une voix un petit peu peste, tu vois, dans Princesse Sarah, tu sais, un peu Lavinia. Doichi rappe un peu comme ça aussi, d'ailleurs.
Mais c'est vrai que voilà, je pense que ça prolonge les liens hip-hop, électro dont on parlait, parce que c'est pas du tout un morceau club, en fait, de base, ce morceau. C'est trop lent pour être un morceau club. Et pourtant, c'est devenu un des titres iconiques. Même moi, j'ai pensé utiliser ce titre pour le titre du bouquin, comme c'était pas assez éloquent. Mais
tu voulais l'appeler Pop the Glock, le bouquin?
Pop the Glock, ouais.
Ok.
Après, avec un sous-titre, bien sûr, mais j'aimais bien l'idée d'utiliser un morceau
phare. Il a dit tristement, bon, non, les années blog.
Ouais, Pop the Glock, c'était quelque chose, hein, ça.
Mais je pense que ça aurait été encore plus flou pour
beaucoup. Ah oui, les gens n'auraient pas compris du tout ça, par contre. C'est... Ah bah, peut-être que tu aurais eu des armes zouz qui auraient acheté le truc. En mode, bah, ça parle de Glock sur la couverture, il n'y a pas un seul flingue dans le livre.
On arrive un peu à la fin en fait de ce mouvement qui a été assez éphémère, puisque 2005 vraiment ça commence à prendre, puis 2011 ça y est on arrive à la fin déjà.
Ouais, même 2010 c'est déjà, ouais. Ça sent le sapin, ouais, mais le...
Alors, tu prends le truc c'est assez intéressant, il y a un côté presque, alors j'exagère, mais un côté un peu crépusculaire, un peu fin d'époque quand même, parce que il y en a pas mal qui commencent à se poser des questions sur leur mode de vie, etc. Et notamment tu prends l'exemple de Parawan, il est assez éloquent. Donc, longtemps, Parawan a pensé pouvoir passer entre les mailles du filet. Il avait tort. Aujourd'hui, il se sent comme un enfant gâté. Il a l'impression d'être ridicule en repensant à ce séjour de 2007, lors duquel il découvre son agenda au hasard d'un mail de son agent. « Ah, demain je joue à Barcelone ? Et dans 3 jours ? Ok, je pars en tournée à New York et Los Angeles avec Boys Noize. » Tout est fou, intense, excitant. Pour tenir, il y a le vodka Red Bull, mais avec le décalage horaire, les trajets en avion et la fatigue qui s'accumulent, c'est à peine s'il sait dans quelle ville il ouvre les yeux chaque matin. Quelques semaines plus tard, DJ Mehdi et Surkin le remplacent sur scène, ses mains tremblent. Aux urgences, on le suspecte d'être sous psychotrope. La vérité, c'est juste qu'il n'a pas dormi depuis 5 jours, qu'il a un peu bu, son corps le rappelle à l'ordre. C'est une première alerte. La seconde arrive en 2010. 4 années de trajet en avion ou train, 3 fois par semaine, on laissait Parawan le visage blanchi, pâle, typique de celui qui a trop donné de la nuit, usé d'avoir suivi le rythme d'une musique que le corps peine à suivre. Résultat, et là c'est lui qui parle, j'ai fait une crise d'angoisse et ne suis pas sorti de chez moi pendant 10 mois.
Bon. Ah ouais.
C'est un exemple extrême, etc. Parce que le passage est un peu fort. Ouais. Mais globalement, quand même, il y a un truc de, il y a un moment où tous reconnaissent qu'il y avait une forme d'excès, d'ivresse, de la nuit, etc. Où ils sont allés. C'est peut-être pas tenable sur le long terme. Et ça participe quand même aussi à la fin d'une époque. Il y a le décès de DJ Mehdi aussi, alors qu'il n'est pas lié aux excès. Hein,
non, mais symboliquement, 2011, c'est vrai que la disparition de DJ Mehdi.
Il y a un excès, le décès de DJ Mehdi. Sur la véranda, il y avait beaucoup trop de gens, sur la verrière.
Oui, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas les excès de la nuit, de la drogue, machin, etc.
Non, mais en fait, c'est aussi, pour moi, c'est très illustratif de ça, c'est le sentiment d'être immortel.
Le sentiment pas, ça, que je pourrais pas juger.
En fait, c'est l'impression que justement, rien n'a de prise sur toi parce que t'es jeune, forever young, tu vois.
Ouais.
Et en fait, bah non.
Moi, je sais pas d'ailleurs s'il y a eu des enquêtes sur la mezzanine, s'il y avait des soucis de construction. Enfin,
littéralement, c'est qu'il y avait trop de monde dessus. Mmh. C'est que la structure était pas suffisamment solide parce que ça avait pas été étudié pour ça, tu vois.
En tout cas, il y a ce truc vraiment de... Puis les gens prennent de l'âge. Puis il y a des jeunes derrière qui poussent un peu sons plus frais.
Il y a une nouvelle génération qui arrive, évidemment. On l'a dit, de toute façon, il y a la scène EDM et dubstep qui est plus massive. L'Amérique, les États-Unis comprennent le marché potentiel des musiques électroniques.
Y compris avec cet exemple européen des trucs Bloghouse.
Il y a Ableton qui arrive aussi.
Il y a Ableton. Il y a aussi une fin de cycle pour pas mal de labels. Par exemple, Institute s'arrête et ça devient. Des membres montent Marble, d'autres montent. Son Pellegrino, enfin il y a ça, le mouvement s'éclate un peu. Il y a un truc aussi symbolique, moi je trouve, c'est on parlait de l'influence de l'électroclash sur cette génération, et en fait finalement il y a une espèce de boucle qui vient se refermer, c'est-à-dire que la nouvelle star de la musique électronique française, notamment techno, au début des années 2010, c'est Geza Falstein, qui arrive avec un costume cintré, il est donc avec une esthétique beaucoup plus new wave rock. En plus, il est soutenu et produit par The Hacker, donc quand même l'un des grands noms de l'électroclash française. Donc c'est comme s'il y avait une boucle qui se refermait à ce moment-là. Et puis oui, il y a des nouvelles tendances. Et puis je pense aussi même les acteurs du mouvement. Par exemple, on citait DJ Mehdi, mais ses dernières productions avec Carte Blanche s'éloignent de tout ça. En fait, il revient un son plus Chicago House que purement Blog House, quoi. Donc il y a une évolution qui est naturelle. Et beaucoup m'ont dit qu'ils avaient flirté avec le burn-out quand même, ouais. C'est beaucoup d'excès, en fait, tout simplement. Et puis, ils approchent la trentaine, certains l'ont déjà passé, comme Parawan, et l'envie de faire autre chose.
En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est pas un mouvement qui s'inscrit dans la durée, dans le sens où une autre génération d'artistes a pu arriver et perpétuer le mouvement. C'était vraiment un truc qui était lié à une classe d'âge. C'était eux qui étaient au début et c'est eux qui sont à la fin, tu vois. C'est vraiment genre, c'était...
C'est une transition.
Ouais. C'est la dizaine entre les 20 et les 30. Et puis,
parce que beaucoup sont encore actifs aujourd'hui sous diverses formes, hein, mais beaucoup sont encore actifs. Je pense que c'est juste une énergie, un feeling qui est devenu un peu moribond. Et du coup, on est parti
mais est-ce autre que, chose, quoi. Est-ce que le fait que, justement, ce terme Bloghouse n'ait finalement même pas été... mis en place, ou en tout cas défini par les acteurs du truc, ça illustre pas le fait que pour ces gens-là, c'était peut-être pas un mouvement, c'était juste la vie normale. C'est comme ça.
Ouais, je pense que c'était. Ouais, ils vivaient entre. Enfin, ils étaient tous un peu potes, ou en tout cas, ils se connaissaient. Et je pense que c'est un truc qui s'est fait très naturellement pour eux et que nous, on a conceptualisé comme. Comme on le fait à chaque fois d'un point de vue, d'un regard journalistique, quoi. Ouais, c'est ça.
Mais d'ailleurs, en réalité, il y en a, je sais pas si elles étaient parfaitement contemporaines du mouvement, mais il y avait quand même des réflexions autour de noms. Il y avait le terme turbine qui était utilisé. Il y avait eu le côté French Touch 2.0 pour dire qu'ils étaient dans une forme de continuité après R, Cassius, Daft Punk, puis même les pionniers, Laurent Garnier, etc. Bon, t'avais une nouvelle vague French Touch qui était le 2.0.
Très drôle, c'est que le 2.0, aujourd'hui, c'est comme le 2000 derrière le nom.
Oui, oui, c'est très web de cette époque.
C'était désuet, en fait, 2.0, quoi.
Complètement. Mais ouais, il y avait quand même aussi la vague électroclash, il y a eu la vague new rave. Donc, il y a eu aussi des termes plus précis pour déterminer des sons un peu plus. Voilà, mais tu vois, ce que tu as voulu, c'est plus la globalité d'un truc avec du commun.
Ouais, c'est vraiment la globalité de cette époque, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens plus pointus qui vont parler de fidget music. Crookers parlait de leur musique comme de la world house music. Donc, en fait, il n'y a pas un terme qui a réuni tous ces artistes. Le terme blog house, c'est peut-être le. Je ne sais pas si c'est celui qui le réunit le mieux, mais en tout cas, c'est celui qui a été retenu par, on va dire, par l'histoire. Donc, je trouvais que c'était plus cette idée-là, quoi. C'est d'aller vraiment regrouper, rassembler toute cette génération qui a abordé la musique un peu de la même façon, avec le même état d'esprit, dans un même mouvement, quoi.
Puis le changement aussi, on parlait de la fin de MySpace, c'est quand même ouf, je l'ai dans le bouquin parce que tu le dis, tu vois. Racheté en 2005 pour 452 millions d'euros, MySpace.
C'était colossal à l'époque. Hein.
Et revendu pour à peine 27 millions fin juin 2011. Mmh. C'est-à-dire que 6 ans après, on passe de 452 millions à 27 millions. Mmh. Bon, en fait, il y a tout qui se casse la gueule. Il y a aussi un nouveau modèle de l'industrie qui va émerger petit à petit, le streaming.
Bah, oui, ça a contribué à la...
Spotify, c'est quoi? C'est 2008-2009?
C'est à peu près à cette époque-là.
Ouais, Deezer, Spotify arrive à peu près au même moment. Ça doit être même peut-être un petit peu plus tôt, maintenant.
2010, ouais.
L'avènement, c'est 2015-2016,
ouais.
Mais le...
C'est 2007 de Deezer, et je crois que ça se lance genre quelques mois avant Spotify. Mmh. Donc c'est vraiment, oui, c'est 2007 les deux probablement. Je précise d'ailleurs, j'ai regardé Ableton, première version 2001, je crois.
Ok.
Voilà. Alors après, Ableton qui s'impose comme le dos certainement le plus populaire, ça met du temps, mais ça arrive tôt en fait
c'est le dos et c'est le push, tu vois, c'est ce truc-là, c'est vraiment la logique du logiciel qui pour moi est... complètement, tu vois.
Ouais, après, il y a eu d'autres contrôleurs. Je me demande même si Machine n'a pas été plus.
Franchement, pas au niveau de l'adoption, tu vois. Moi, je sais qu'à l'époque, justement, Reason,
ouais.
Tout le monde avait Reason.
Ouais,
si t'avais un PC, c'était Reason. Si, ouais. Ou Cubase, mais du coup, c'était chiant parce qu'il fallait craquer. Reason, c'était plus facile à craquer. Ne volez pas les logiciels.
Après, les vrais avaient Cubase et mettaient Reason en rewire pour avoir les sons de Reason, mais dans un séquenceur un peu plus sympa.
Ouais, mais moi, j'aimais bien l'UI de Reason. C'était très chouette. Et pareil, tout comme MySpace, ce truc a disparu. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui utilisent encore Reason aujourd'hui, mais...
Honnêtement, je sais pas.
Bonne question.
Ouais, bonne question.
Tu vois, parce que c'est ça qu'on n'a pas...
Ils ont pas mal revu la formule de Reason il y a quelques années.
C'est ce point-là qu'on n'a pas évoqué, c'est que nous, normalement, dans cette émission, on aime bien aussi justement parler... comment ? Workflow.
Ah bon.
Workflow, tu vois. Genre, tous les gens de cette époque-là, est-ce qu'ils utilisaient, comme aujourd'hui, tu vois, sur une scène bien définie, tu vas avoir... les mêmes plugins, les mêmes VST utilisés par les gens parce que ils cherchent un son bien spécifique, tu vois.
Ouais.
Est-ce qu'à l'époque il y avait un peu ce truc là entre les différents acteurs, ils utilisaient les mêmes bécanes, les mêmes trucs
Globalement, il y avait il y avait vraiment une même façon de travailler, ouais, vraiment un peu en fait ce qui revient souvent, tu vois, c'est vraiment un propos qui autodévalorisant, quoi, c'est de se dire, moi j'ai fait ce morceau là mais j'ai l'impression que c'était avec des sons de merde, des logiciels, des plugins de merde, et ça a fonctionné, tu vois. Il y a vraiment ce truc qui revient très souvent chez la plupart des artistes,
parce qu'il y a dans le bouquin, il y a toute une partie à la fin de chapitre, souvent il y a un truc qui s'appelle Beyond the Mix, où en fait tu parles d'un morceau précis avec son producteur, et il raconte un peu autour du morceau comment il a travaillé, et c'est vrai qu'il y a une espèce d'humilité,
laisse la parole,
en mode bah, j'avais un ordi de merde, j'avais 3 machines de merde, et on a fait le morceau en 2 jours, et voilà quoi. Enfin, il y a un truc
ça revient très souvent, ouais, c'est vrai, des morceaux nés très rapidement d'une idée qu'ils estiment basique, et avec un morceau qui a été mal mixé, mal compressé, et ça a donné cet effet en fait qui a participé à la réussite du morceau.
Et ce qui ressort même aussi régulièrement, c'est quand ils se mettent un peu trop à réfléchir, bah, ils perdent le naturel, et ça marche moins au final, quoi.
Ouais. Bah ouais, et d'ailleurs, c'est marrant, c'est que bah, pour le bouquin, justement, j'avais rencontré Sirkin, qui a un studio à Paris, et dans son studio, bon, il y a plein de synthés, tout ça, mais en fait, il me disait, Bon, je me les suis achetés, c'est un kiff, je les utilise, mais en fait, automatiquement, il revient toujours vers l'ordinateur. C'est sa façon de composer. C'est des gens qui sont nés avec ça. C'est leur premier outil. Et donc, ouais, ça reste hyper central dans leur approche. Là où je pense des gars comme Justice peut-être fonctionnent autrement aujourd'hui, parce qu'on est sur d'autres ambitions, c'est d'autres musiques, mais le...
Ouais, puis l'enjeu du renouvellement artistique aussi qui se pose d'une manière différente peut-être. Quand t'es aussi scruté que Justice, il y a un moment où tu dois faire évoluer ton son, peut-être que ça peut passer par de nouvelles approches dans le workflow et dans les machines. Et tout
comme Daft Punk en fait. Les mecs ils sont revenus à l'acoustique
parce qu'ils avaient
fait le tour et en fait leur random access memories, les gens étaient en mode ah bah super, c'est chic.
Ils sont beaucoup plus analogiques effectivement.
Ouais, clairement, avec un côté un peu plus rétro, même si c'était hyper bien foutu. Mais c'était
génial, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Grand album.
Vous parlez de RAM?
Ouais. Ah, plus sceptique.
Moi je trouve que c'est pas...
J'ai trouvé ça trop bien.
Je peux pas dire que c'est un mauvais album, la production est folle, machin, etc. Ça m'a absolument pas touché, je capte pas. Je préfère écouter les originaux en fait, si c'est uniquement pour rendre hommage à sa musique.
Tu vois le gatekeeper.
Mais c'est parce que...
C'est pour ça que la musique n'évolue plus.
C'est parce que j'attends Daft Punk, et pourtant j'adore Daft Punk. Mais... Bon bref.
Ouais.
Si, je te dis, après tu pourras compléter ça. Moi si je devais retenir deux trucs de l'héritage et de ce que ça a pu représenter... C'est, on l'a déjà dit, période de transition, de bouleversement qui donne ce qu'on a aujourd'hui, etc. Mais je retiens surtout que c'est peut-être la première génération visible comme ça, ou en tout cas, c'est le symbole de cette première génération qui a bouffé vraiment du rock, du rap, de la musique électronique, un peu tout.
C'est clairement ça, ouais, je pense, grâce à Internet, évidemment. Mais
ça, c'est quand même un changement culturel majeur, et qui encore aujourd'hui perdure, évidemment, et qui a changé la face de la musique à tout jamais, je pense. Maintenant, c'est bon, on a compris que... qu'il n'y a pas de frontière musicale.
Ouais, mais à l'époque, c'était pas le cas en fait. C'est ça qui est dur à comprendre, enfin peut-être à saisir aujourd'hui. C'est que c'est vrai qu'au début des années 2000, il y avait des castes. Et beaucoup plus marqué, beaucoup plus...
Les grands mélomanes, les fins connaisseurs, ils savaient qu'en fait, tous les genres musicaux sont reliés, qu'il y a des histoires communes, machin, etc. Mais le public, de manière générale, il était vachement dans une case, comme tu le disais.
Et pour moi, c'est... en fait, c'est dans un versant beaucoup moins... pop ou grand public, mais c'est sur la même dynamique que ce qu'a pu faire Gorillaz en 2001, ce qu'a pu faire Annie Hardy aussi à la même époque. Vraiment, on croise le rock, le rap, la pop, et tout ça. C'est vrai que c'est rendu plus facilement digeste pour nous en tant qu'auditeurs, parce que d'un seul coup, on a accès à des musiques que nos parents, nos oncles n'ont pas pu écouter autant de musique au même âge, en fait. Parce qu'eux, ils devaient aller chez un disquaire, et puis voilà, prendre un vinyle aller par mois s'ils ont de la chance... l'écouter en boucle jusqu'au prochain, et en fait t'écoutes finalement très peu, t'as peu de possibilités d'écouter énormément de musique différente.
Mais il y avait un truc
là, c'est une génération où tout part dans tous les sens, quoi.
Le petit jeune là, comment il s'appelait? Madeon,
ah oui, je me rappelle.
Le premier morceau, c'est un mashup de je sais pas combien de titres. C'est aussi
sur YouTube, un truc comme ça.
Et c'était ça illustrait justement ce truc là c'est que tu peux être un gamin qui a grandi dans la région nantaise et avoir une culture musicale de zinzin, en fait, simplement parce que tu as Internet qui est là et qui te permet de... Et c'est pour ça que c'est super intéressant de voir, là, on a vu le décentrement de la musique moderne avec justement le côté... tout ce qui est musique de région qu'on ne considérait pas commercialement parlant, ou en tout cas dans l'industrie musicale occidentale. Je pense à la musique latine, on a parlé, le reggaeton, etc. La musique africaine également qui sort, qui revient, enfin qui prospère, et qui surtout conquiert le monde. Et c'est super intéressant de se dire où est-ce qu'on sera avec les enfants aujourd'hui qui mangent ça et qui peuvent écouter en fait un artiste nigérian ou un artiste colombien de la même manière que nous on écoutait un artiste new-yorkais ou un artiste de Détroit, tu vois. Et qui, dans 15 ans, vont faire de la musique. Ça veut dire que, moi, l'horizon, je le vois, je me dis, c'est un truc incroyable, en fait, ce qui va arriver. Parce que vraiment, on est sur un truc exponentiel.
Il y a 1000 pistes à explorer, en fait, finalement.
C'est super vraiment... intéressant ce qui se passe.
Moi, j'ai un truc un peu moins positif.
Ah non.
C'est que je trouve aussi que cette scène illustre quand même...
Le formatage.
Le capitalisme qui gagne, quoi. C'est-à-dire que... En fait, c'est le paradoxe aussi de ces scènes qui à la fois rendent hommage à l'underground et à la pop. Et en fait, on se rend assez vite compte que le côté pop bouffe tout. Il fagocite tout. Et que la pop, c'est son essence même à la pop. C'est de récupérer les cultures underground pour les rendre accessibles à tout le monde et en faire quelque chose. Il y a une beauté dans ce geste. Et en même temps, parce qu'il y a une économie autour de tout ça, ça détruit aussi des choses, entre guillemets, enfin, ça mange, quoi, en tout cas, voilà, ça phagocyte. Et je trouve que c'est hyper clair avec ça. Eux qui étaient dans une forme à la fois de célébration de la pop, mais surtout quand même des cultures underground, bah, ils sont devenus mainstream, ils ont donné naissance à des trucs hyper mainstream.
Bah oui, mais c'est l'objet. En fait, enfin, moi j'ai du mal avec. Je comprends le point de vue, mais d'un autre côté, si ces mecs-là, parce que c'était principalement des mecs, on l'a dit, si ces gars-là font du son, c'est pour que les gens l'écoutent. Et que les gens l'écoutent partout. Il n'y a personne qui fait de la musique pour être écouté que sous un pont.
Mais il y a le geste pop et il y a le geste plus underground. Il y a beaucoup de musiciens dans plein de styles musicaux plus radicaux qui vont dire non, moi, je fais de la musique pour être écouté, mais par une niche de gens qui comprennent ma musique.
Bah oui, mais du coup, on se retrouve dans l'artiste qu'on a nommé tout à l'heure qui a inspiré Justice et qui, lui, en fait,
n'a pas de musique. Ouais.
Et en tout cas, d'un point de vue artistique, et qui vont dire je préfère rester dans une forme d'éthique vis-à-vis d'un public certes restreint, mais ne pas rentrer complètement dans la machine industrielle. Il y a des artistes qui font ce choix aussi.
Qui
bah plein.
Mais on peut pas les citer puisqu'ils sont pas connus. Pratique.
Si. Il y a des entre-deux. Et après, d'ailleurs, il y a des anomalies aussi. Des mecs qui sont restés underground pour un public restreint et qui, en fait, arrivent à... On parlait d'Aphex Twin. Aphex Twin, c'est une anomalie absolue, tu vois.
C'est quelqu'un vraiment qui devrait pas avoir le succès ou évidemment. La renommée. Enfin, c'est très
bien. Il a fait des trucs avec du piano, donc forcément, ça marche.
Il
a été repris par Kanye West, ça marche. Hein.
Dans la musique électronique, pareil, tu vois, One Trick Point Never, des artistes comme ça, etc., qui sont en fait assez radicaux, assez déstabilisants, et qui arrivent quand même à toucher un public large, mais je pense pas en le souhaitant, en tout cas sans compromis.
Ouais, mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que, en fait, quand tu penses que, justement, un artiste comme Skrillex, il a tout niqué, alors que tu vois, t'écoutes Bangarang, tu te dis waouh, c'est la proposition, elle est très très radicale quand même dans
alors après, alors lui,
dans l'esthétique.
Oui, mais c'est parce qu'en fait, Skrillex il joue sur les deux tableaux.
Bah oui, mais en fait,
Skrillex c'est à la fois la brostep et les trucs qui tâchent, etc. Et c'est en même temps un mec qui a une vraie culture des musiques électroniques, qui sait leur rendre hommage, etc. Qui peut faire des albums. D'ailleurs, je sais plus quelle année il avait sorti deux albums, une semaine d'écart. Il avait un album hyper commercial avec Justin Bieber, machin, etc. En featuring dessus, et à côté il avait son album vraiment électronique. Et c'est un mec qui est capable de jouer vraiment sur les deux tableaux.
Est-ce que c'est pas ça en fait le est-ce que ce genre de d'approche là, c'est-à-dire d'embrasser en fait le côté mainstream et de faire des trucs qui vont plaire à la foule, mais de pas oublier d'où tu viens et qui tu es, c'est, pour moi, c'est la bonne approche, tu vois.
Je suis complètement d'accord, mais dans le cadre de la Bloghouse, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui en fait n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi pour plein de raisons, mais n'ont pas réussi à maintenir ces deux trucs. Et en fait, j'ai l'impression que l'héritage, il est surtout cette EDM derrière qui voilà, etc. Je sais pas.
En tout cas, oui, l'héritage direct. En fait, ce qui est intéressant là, en 2026, c'est qu'il y a quand même... Alors, bizarrement, peut-être pas, parce qu'en fait, la musique est une histoire de cycle. Et en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'artistes qui revendiquent, soit dans les interviews, soit dans leur son, en fait, finalement, un héritage avec, cette génération-là. Et je pense, par exemple, moi, il y a une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nina Jirachi, qui est une artiste australienne là, qui a sorti un premier album l'année dernière. Son album s'appelle I Love Computer ou My Computer, je sais plus s'il y a la particule. Et en gros, dedans, il y a un morceau qui s'appelle iPod Touch. Il y a un morceau, c'est Fuck My Computer. Il y a un morceau, le titre, c'est en emoji. Et on est vraiment sur ces codes-là d'électro un peu saturé, glitché, mais en même temps avec une approche très pop. Et donc, il y a un héritage qui se fait, mais c'est clair qu'après, dans les années 2010, je suis totalement d'accord avec toi, c'est le capitalisme qui gagne, comme toujours, malheureusement.
Ah oui, en fait, c'est ça le truc.
Et ça, c'est vrai que ça va embroyer beaucoup, et d'autres vont s'en sortir, heureusement. Des gars comme Boys Noize, Justice et Trax sont toujours là, mais c'est clair que ceux qui sont le plus en retrait, d'ailleurs, je pense que c'est peut-être même ça qui a... C'est l'une des raisons pour laquelle Uffy n'a pas réussi, je pense, avec son premier album, quoi. C'est que déjà, elle a mis du temps à le sortir, ça a été un enregistrement compliqué. Et en fait, c'était quelqu'un qui, je pense, fondamentalement, en tout cas à cette époque-là, ne voulait pas jouer au jeu-là. C'était une fille qui était très bien avec ses morceaux qu'elle pouvait sortir de temps en temps, à tourner dans les clubs, mais que l'ambition de l'album et ce côté plus marketé de la musique, on fait des interviews, on sort un album, on part en tournée. C'était pas pour elle.
Ouais, donc le système qui va avec la renommée, ouais. En fait,
c'est pas pour tout le monde. Ouais, c'est vrai que je pense que ça, c'est une vraie question pour les artistes. C'est vrai que quand on discute avec des jeunes artistes, on les amène souvent vers ce qu'ils voudraient faire, à quel point ils voudraient avoir du succès, mais Le succès déjà, enfin c'est un peu une notion toute relative, mais c'est vrai qu'on veut toujours les amener vers plus et que c'est intéressant parfois de se dire bah se contenter de ouais en tout cas de
bien,
je fais une tournée en France de smack de salles de 500 places, je vends 5000 albums, je vis à peu près de ma
c'est marrant parce que
la musique c'est très cool aussi quoi. Pas besoin
de on en parlait avec Miel de Montagne où lui il avait dit que normalement tu fais une salle puis une autre puis une autre puis une autre et ça monte à chaque fois et que lui il a décidé de scale down le truc en disant je vais faire plusieurs fois la maroquinerie alors que normalement je suis
ça c'est un mouvement que pas mal d'artistes suivent y compris même les plus gros.
Ouais, mais ça pourrait presque être considéré comme un genre de décroissance, tu vois, de dire ok, t'as fait le machin, le bidule, la maro, donc là tu dois passer.
Je crois
qu'il y a
aussi une logique d'offrir au public une expérience différente. Je prends l'exemple des gros parce que je crois que c'est Lady Gaga qui a choisi au lieu de faire un Stade de France,
elle fait deux Zénith ou trois Zénith, exactement.
Ouais. Ouais. Et je crois qu'il y a un mouvement aussi comme ça, mais aussi vis-à-vis du public en fait, d'une expérience où on a conscience que maintenant les trucs démesurés, peut-être qu'en termes d'expérience sonore par exemple, c'est pas l'idéal, c'est pas etc. Peut-être que d'un point de vue économique, c'est aussi peut-être un peu moins risqué.
Ce qui est intéressant, c'est justement que dans normalement cette logique capitaliste qui fait que on va toujours plus gros, tu vois, et que enfin le truc qu'on dit en management là, c'est que toute personne s'élève jusqu'à son niveau maximal d'incompétence, tu vois. Bah, en fait, les artistes sortent de ce truc-là et se disent ouais, finalement, en fait, je vais faire 4 Zénith plutôt que 2 Bercy, tu vois.
Le meilleur exemple qu'on a reçu, ce qu'on a reçu dans l'émission, c'est Terre Noire. Qui a aussi décidé de complètement tourner autrement.
Oui, alors eux, par contre, et alors, c'était la question que je voulais poser. Peut-être que, justement, est-ce que vous ne croyez pas que le côté fluo kids, soirée, apolitisme total, zéro vision sur l'avenir, c'est pas aussi le truc qui a fait qu'ils se sont perdus en cours de chemin? Est-ce que s'ils avaient été peut-être un peu plus conscients des enjeux, ne serait-ce que par rapport au business, par rapport aux contrats qu'ils peuvent signer, machin, etc. Est-ce que c'est pas leur côté un peu cigale? Et là, je parle de salle de spectacle.
La preuve, c'est Justice. Eux, ils ont payé parce qu'il y avait Pedro Winter aussi. Tu vois. Lui, il savait ce qu'il faisait.
Par exemple. Ouais, il y avait quelqu'un d'expérience derrière aussi. Et puis eux, en plus, paradoxalement.
T'as raison, les plus cigales, eux, ça n'a pas marché. Ouais. Mais ceux qui étaient bien entourés et qui avaient.
Puis en plus, Justice n'ambitionnaient pas de faire de la musique de club en plus. Donc c'est vraiment, ils ont tourné tout de suite dans des Zénith et autres. C'est vraiment une autre ambition, Justice.
Et puis tu parles aussi de, c'est pas le cas que de Justice, mais il y a eu aussi un moment une espèce de récupération commerciale où des marques, des machins, etc.
Il y a beaucoup de pubs qui ont Yuxex, c'était une pub pour Peugeot, pour le morceau Tonight, un morceau de CSS, c'était pour l'iPod. Enfin, voilà, il y avait aussi flirt.
Il y avait un billet à faire et parfois, il savait aussi.
Et comme c'était la musique cool du moment, il y avait forcément beaucoup de marques derrière. Quoi.
Mais en tout cas, ça me question. Tu vois, parce que ce côté, je me demande, tu vois, s'il y a à mettre trop de pop dans sa musique à un moment où la pop finit pas par nous bouffer, j'aimerais bien savoir ce que va devenir l'hyper-pop, par exemple, qui est un mouvement que je trouve hyper intéressant.
Ouais.
Mais je me demande si cette espèce de position à la fois cynique et en même temps j'embrasse complètement les musiques populaires, mainstream, etc. En même temps, je la colle à plein de cultures différentes, plus underground et tout. Est-ce qu'au final, ça va être la même chose? Est-ce que ça va pas être la pop qui va gagner?
Peut-être. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là, c'est Gabo Dega qui fait un album d'ambiance, Okelou qui est rattaché à l'hyperpop. Finalement, son album, c'est clair. Enfin, c'est galore et c'est pas de l'hyperpop, clairement pas. Et donc, on sent que les artistes affiliés à ce mouvement proposent quand même une musique complètement différente, un peu de ce qu'on peut avoir en tête de l'hyperpop. C'est pas aussi maximaliste qu'on veut le faire croire, quoi. Donc peut-être qu'en fait ils sont eux-mêmes en train de s'éloigner de ça, parce que ça veut un peu peut-être tout rien dire aujourd'hui l'hyperpop là depuis un ou deux ans voire plus, et que les artistes, on va dire les porte-paroles de cette scène, le fait qu'ils s'éloignent d'eux-mêmes des codes de l'hyperpop, ça va amener d'autres, ça va peut-être tuer petit à petit ce mouvement, mais en faire naître un autre, là en tout cas laisser de la place à un autre mouvement. Je suis pas sûr que l'hyperpop soit un genre fait pour durer longtemps, mais c'est intéressant. C'est aussi un genre très 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 numérique aussi, quoi, finalement, dans le prolongement de.
On sait déjà de quoi parlera le
prochain livre.
Non, mais il y a un très bon bouquin sur l'hyperpop déjà. Donc c'est.
Ouais, mais là il faut que tu en discutes, faut que t'en parles. Tu diras les années hyperpop.
Les années
dans 15 ans. C'est ça. 15 ans, t'arriveras en mode. Hey, les gars, on va parler de ça.
Bon, en tout cas, on vous encourage à lire le livre de Maxime, parce que là.
Alors oui, on a repris les grandes lignes, mais il y a tellement de références, tellement de détails. Ça donne envie d'écouter plein de morceaux de musique parce que tu cites plein d'artistes et tout. On se replonge vraiment dans une... Alors si on a connu cette époque, ça permet de se replonger dedans ou ça permet de découvrir des choses.
Ouais.
Parce qu'encore une fois, ça peut être aussi un super exercice de filiation musicale. Parce que comme ils sont eux-mêmes influencés par plein de choses, on peut remonter comme ça un peu le truc et tout. C'est assez intéressant à ce niveau-là.
Tant mieux, c'était le but en plus pour le coup.
c'est plutôt comme le disait Da, c'est bien écrit. Franchement, on passe un bon moment. Si je te dis un truc vraiment que je trouve vraiment très réussi dans le livre, c'est que je trouve ça toujours hyper difficile. Je l'ai vu en préparant cette émission, comment c'est difficile de trouver le bon fil conducteur. Est-ce que tu fais pas faire le truc non plus trop chronologique,
ouais,
tu sais,
ouais.
Ça commence là, puis ça se termine là, machin, etc.
Ouais, ouais.
Et arriver à mêler les trucs. Et en même temps, il y a de l'information, elle doit apparaître quand même assez tôt pour pouvoir parler assez après. Enfin, c'est hyper difficile de bien construire un bouquin comme ça.
Ça s'appelle écrire un livre.
Ouais, et je trouve que tu l'as plutôt bien fait.
Merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir.
C'est donc les années Bloghouse, hein, chez Le Mot et le Reste. Voilà. Achetez-le, offrez-le à vos proches. Et puis on attend donc effectivement le bouquin sur la tectonique, puisque ça revient, ça aussi. Il n'y a pas eu de livre sur la tectonique.
Ça sera l'année tectonique.
Ouais. Non, vraiment, ça a duré qu'un an. Non.
Ah, non, un peu plus, je pense. Je suis méchant, mais je pense pas.
Oui, c'était assez éphémère. C'était une étoile filante.
Je dirais, ça doit être peut-être quoi, 2008-2010, peut-être un peu.
Ouais, je pense.
Ou 2009-2011,
un truc comme ça. Ça a duré un iPhone et demi, je crois. C'est comme ça qu'on les notait, les trends.
Bon, tu le sais parce que tu écoutes aussi l'émission, Max. On finit toujours avec des recommandations.
Ouais.
Est-ce que tu as une idée d'un morceau que tu as envie de faire découvrir à nos auditeurs, nos spectateurs pour commencer avec Da, si tu veux qu'on te laisse un peu de temps.
Non, en fait, je suis OK avec l'idée peut-être sur l'artiste dont je parlais, la Nina Jirachi. Comme ça, ça fait un bon.
Allez,
vu que je l'ai en tête. Et le morceau, Fuck My Computer. D'ailleurs, on parlait d'Okelou. Elle va faire des premières parties d'Okelou là, d'ici peu.
Okay.
Premier concert à Paris en mars, je crois. On dirait que je suis son attaché de presse, mais pas vraiment. mais voilà, c'est une artiste que je trouve hyper intéressante pour toutes les raisons que j'expliquais juste avant. Okay. Elle est. L'album en stock, je le conseille. Il y a des choses qu'on peut laisser un peu plus de côté, mais il y a 3, 4, 5 singles qui sont
cool.
Hyper puissants, je trouve.
C'est marrant en plus parce que il y a le morceau Fuck My Computer, mais il y a aussi le morceau I Love My Computer.
Ouais.
Donc, c'est l'amouraine avec l'ordinateur.
Elle sait pas où se situe.
Elle sait pas où se situe. En tout cas, c'est Fuck My Computer, Nina Jirachi. Cause no one in the world knows me better. It says my name. It says no one in the world does it better. I wanna fuck my computer. Cause no one in the world knows me better. It says my name. It says no one in the world does it better. I wanna fuck. En fait, c'est dans la continuité de I Love My Computer, c'est juste la suite. Je pensais que c'était l'amour, mais non, c'est juste l'amour tout court.
C'est sorti en quelle année ?
C'est un amour plus physique cette fois.
C'est récent.
C'est sorti, c'est sorti en fin d'année dernière.
J'ai l'impression de l'avoir entendu déjà.
En août 2025. En tout cas, ça tue, hein, je trouve ça trop bien. Et c'est bien produit.
C'est dans un fond assez massif.
Dans une série, c'est pas.
Je sais pas.
J'ai l'impression de l'avoir déjà écouté, entendu.
Après, c'est pas d'une originalité folle, mais c'est hyper bien fait.
C'est vachement bien.
Non, je trouve qu'on est vraiment sur un héritage clairement affirmé, mais c'est vraiment bien produit, c'est soigné, ça s'inscrit dans cette génération là actuelle qui puise vraiment, qui revendique un peu les années Bloghouse.
J'ai entendu les trucs, on a écouté Digitalism Pogo.
Il y a un héritage clair et net.
puis le côté glitchy. Ça, j'aime beaucoup aussi un groupe. J'avais jamais fait le lien avec cette période-là, mais ça peut marcher. Tu vois, Touchel, ça te parle?
Oui, oui, bah, oui.
Je trouve qu'il y a aussi une filiation, tu vois, possible.
Ouais, ouais, clairement, je pense qu'il y a des, il y a des goûts communs, en tout cas, des affinités communes. Ouais.
Daz, est-ce que t'as?
Yes. Alors, un morceau. Ouais. Introuvable.
Ah oui, il sera pas sur Spotify.
Ah
c'est
non,
ça
il sera pas sur Spotify. Donc c'est un artiste indé très peu connu. Il s'appelle Snoop Doggy Dogg. Il
direct sur YouTube.
Snoop Doggy Dogg. Ouais, je pense. Snoop Doggy Dogg, Rala, qu'est-ce qu'on attend? C'est un morceau qui s'appelle What's My Name Extended Remix.
Donc, bon, What's My Name, c'est un méga classique, mais là, c'est une version extended.
C'est une version extended. Il y a du Moog de tous les côtés. Je kiffe ce morceau. Il dure 8 minutes. Et il y a 12 breaks à l'intérieur. Ça change de mood et tout. J'adore ce titre. Voilà.
On sait qu'il l'a.
Dr. Dre.
C'est Dre.
C'est Dre.
Qui a fait la version extended
ouais,
aussi
ouais, c'est, un remix qui est sorti sur un album qui s'appelle Dre Day Extended Play, où il n'y a que des versions longues ou des inédits, qui est dû sortir chez Defro sans que lui soit d'accord. Hein, mais du coup, ça, tu sens qu'on est vraiment là en 92-93. Sauf que, bah, du coup, je sais pas, le mec au Moog, il était en forme. Et en fait, on l'a laissé dérouler. Voilà, donc,
on s'écoute ça.
Tu l'as?
Ouais.
Allez,
c'est parti.
Si t'avances à 4 minutes.
Déjà, le mix est hyper différent de l'original.
Ouais, ouais, ouais.
Et j'ai l'impression qu'il y a des pistes différentes. Enfin, pas en moins.
Ouais, ouais, il manque des trucs.
Ouais, ouais. À 4 minutes ?
Ouais,
ouais. Hop, vas-y. Cette version.
Il est chambé le morceau et à la fin ça part en breakbeat et tout. Enfin, c'est.
Okay.
En fait, c'est vraiment le côté P-Funk du G-Funk parce que beaucoup. Enfin, souvent on a insisté sur le côté gangsta, mais en fait c'est du funk et.
C'est la voix de George Clinton même qu'on
ouais,
entend.
Ouais, bien sûr, ouais, c'est ouais. Atomic Dog, mais. Même les mélodies. Snoop Doggy Dogg is who he is. Tu vois, c'est des mélodies funk qui sont reprises, qui sont pas dans les morceaux, qui sont sur les albums. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui ont pris ça comme du gangsta rap. C'est du G-Funk et ça vient du P-Funk. Et, okay. Et moi, quand il y a un Moog comme ça, là, je te jure, le truc il dure 7-8 minutes. Et ben voilà.
Il est grave, monsieur le Moog.
Ouais, il est génial. Moi, franchement, c'est vraiment. Moi, c'est le rap West Coast qui a vraiment ma préférence.
Très bien.
Voilà.
Eh bien, et moi, j'avais allé sur du rap East Coast, alors.
Alors, allons-y.
Voilà. J'essaie normalement d'éviter de faire trop de rock au rap parce que c'est un peu ton domaine, ta chasse gardée,
oui.
Et que je vois qu'on varie un peu. Mais là, je me suis pris une petite.
Vas-y, t'as bien aimé.
Est-ce que tu connais Salimata? Est-ce que vous connaissez Salimata? C'est une meuf qui commence à monter.
Salimata.
New Yorkaise.
Je connais pas.
Ouais, Salimata. Et qui a sorti un album qui s'appelle The Happening en décembre dernier. Et en vrai, il y a plusieurs morceaux assez cool. Et je trouve qu'elle a un vrai truc dans le flow et tout, dans la vibe. J'aime bien. Elle a fait un Colors il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est par cet intermédiaire que je l'ai connue.
Ah, j'ai vu passer. J'ai pas maté, mais j'ai vu passer la vignette.
Et le morceau. C'est pas pareil, on n'est pas dans l'originalité folle, hein, mais bien fait. Et la meuf, je la trouve forte. Elle s'appelle Sweet Thing, Salimata.
Allez. What a sweet thing.
Mary, I am with a senior press kid, and I ain't impressed, kid. What you expect, fucking with some gangsters? We like piranhas, nigga. Vicious and dangerous. Don't be scared, show me what you made of. Keep a couple bitches. Killers, they roll with me. Got a couple switches. On these verses, I'm so different. I'm like hieroglyphics. Gotta dissect the whole picture. I could win Olympics. While I'm flipping these little digits, what's the gimmick, nigga? You seem wimpish. Only been here for like 3-4 minutes. Something in the air. All these niggas turn bitches. Get them out of here. I don't need another witness. Cause the way I'm killing them, ain't nobody gonna forgive me. Last time I seen a tent, I was making change for 50. Better put your buckle in. Cause I'm going over limits. I be doing it for really. Watch me go with Papa Willy. Like, I be chilling where niggas get they supply from. Couple hundred. If you wanna get your eyes done, 360. If you want your whole mind spun. The way I see it, these niggas don't know where I'm from. Way past the hype, say how the Queens though. Used to be up on the ad wearing something lethal. Back when niggas selling dimes wasn't even legal. This is Brooklyn, bitch, better get your bees up, bees up. Never fuck with niggas who be fiending demons. Get up under niggas, make them squeamish, bleeding. Thunder coming, better get your fetus. Me and my niggas take the cake back to Venus. Real star shit, like you shooting, can't see us. Try to double back, nigga think that he could real. Nigga think he smart, didn't know I was a genius. In the dictionary, I am what a G is.
Ah ouais, hip hop jazz.
Le morceau est terminé. Il est court, ouais, 1 minute 49.
Ok. Très cool.
C'est bien, hein.
Ouais,
c'est, ouais, ça fait penser à Bahamadia un peu dans le style, quoi. Franchement, ben c'est justement hip hop jazzy, c'est-à-dire pas du hip hop soul ou du hip hop funk, mais des samples de jazz.
Ah, après, ouais, ouais. Après, là, ça reste quand même, ça reste funky soul quand même, non? Tu
trouves
pas?
Ouais, mais en fait, c'est très, tu sais, c'est vraiment côté un peu natif tongs, quoi.
Oui, pour ce côté-là, ok. Puis le côté hyper répétitif et tout, tu
ouais,
vois.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Mais étonnamment mixé aussi. La voix plutôt en retrait, le sample hip, enfin, je sais pas si c'est un sample, en tout cas, l'instru hyper mis en avant, tu vois. Avec le
non, c'est... Ça, on s'attend à ce que la partie instrumentale soit bien développée sur la fin.
Ouais.
En fait, ça coupe au moment où on s'attend que ce soit un petit solo.
Et ça enchaîne vraiment avec le morceau d'après.
Ok.
Et alors, j'ai pas écouté tout l'album, j'ai écouté plusieurs morceaux. J'ai pas été séduit par tout, mais genre, il y a 2-3 bangers dessus. Et je crois qu'elle est assez jeune. Elle a peu d'écoute encore. Mais avec la mise en avant via Colors, je pense que ça va monter.
Salimata en un seul mot.
À suivre.
Mmh. Bravo. Ouais.
Max,
belle découverte.
Encore merci d'être venu nous voir.
Merci à vous les gars.
Avec plaisir.
Un grand plaisir.
On le rappelle, les années Bloghouse.
Chez Le Mot et le Reste.
Chez Le Mot et le Reste, hein, voilà. Et dispo dans toutes les librairies, c'est sorti quand?
Toutes les bonnes librairies, comme on dit. Ouais, ouais. C'est sorti vendredi, le 23 janvier.
Ouais, d'accord. Donc là on peut pas être plus frais que ça. Là.
Exactement.
Sorti du four, les gars.
Hein. Exactement. Et puis, un merci évidemment à François pour le montage de cette émission. Merci à la team Bouclette, Flav, Sam, Alexis aussi aujourd'hui.
Oui,
et notre autre ami qui est avec eux en ce moment, dont j'ai oublié le prénom.
Ah merde.
Bon, Thomas? Non, je dis une bêtise, non, pas Thomas.
Thoman, par contre.
Je veux savoir. Oui, il y a Thoman aussi. Flav, dis-moi pour que je passe pas pour que je remercie quand
même. Mais Flav, on l'a pas entendu. Normalement, il nous donne les.
Flav, oui,
il nous donne les time codes.
Le casque. Ouais. Flav, il est parti. Ouais, il est mangé. Comme ça.
Bon, alors, on dit, hey, les gars, ça fait 30 minutes.
Je le remercie aussi.
Les gars, ça fait une heure.
Merci à Thoman, évidemment, effectivement, de soutenir cette émission. Est-ce que c'était. Tu fais un peu de musique?
Ah non, c'est mieux pour tout le monde.
Ok, c'est quand même. Mais ça ne t'est jamais arrivé d'acheter des choses chez Thoman?
Non, malheureusement, non.
Mais tu connais.
Mais je sais que c'est une référence.
Très bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
C'est voilà,
on peut conclure cette émission. Merci à vous aussi.
Merci,
on se retrouve dans 15 jours. Bête d'invité dans 15 jours. Gros épisode.
Ah oui, c'est vrai.
Et soyez là.